Salam alaikum Safia, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Comment tu vas?
Alhamdulillah, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah écoute, ça va très très bien, barakallah fiki et toi?
Ça va, alhamdoulilah. Alors Safia, moi j'aime bien commencer, tu vois, les interviews toujours par poser cette question, genre c'était quoi ton rêve quand tu étais petite, tu vois? Je vais commencer par ça. Je sais pas si tu avais un rêve, genre quand je dis rêve, ça veut dire oui, quand je serai plus grande, j'aimerais faire ça, ou des choses qui te passionnaient. Tu vois, donc moi, c'était, j'aimais trop lire, et donc je disais toujours, ah, mon rêve, c'est d'écrire un livre, c'est d'être écrivaine, tu vois. Voilà, j'ai toujours eu ce petit truc, plus ou moins enfoui, qui a éclos, on va dire, avec le temps. Est-ce que toi, tu avais ce genre de petit rêve de petite fille?
Alors, quand j'étais petite, ouais, bah, j'aimais beaucoup lire, beaucoup écrire, pardon. J'écrivais des histoires et je faisais beaucoup de dessins, peinture, tout ça et tout. Je dirais pas que j'avais un rêve en particulier, parce que en essayant de réfléchir avec avec ma mémoire, j'étais plutôt attirée par par la musique, par l'effet de faire des spectacles et de faire rigoler. Donc, du coup, c'était plus dans ça ou aller partir à l'aventure, ce genre de choses. C'était plutôt comme ça.
En fait, tu étais une artistique, là. Tu m'as parlé d'écriture déjà, je trouve ça, tu sais, c'est pas commun. Et du coup, tu me dis que tu étais plutôt écriture que lecture.
Ouais, c'est ça. J'aimais pas forcément
C'est
lire.
marrant.
Bon, j'étais dyslexique, donc franchement, j'étais pas à l'aise avec la lecture. Ça me faisait vite mal à la tête. C'était pas agréable. Mais par contre, j'avais une imagination incroyable, subhanallah. Et j'écrivais beaucoup. J'écrivais des histoires. Et c'est mon père qui me poussait à ça. Tu sais, parfois avant de partir au travail, il nous disait, écoutez, vous allez nous écrire une histoire. Donc vous allez m'écrire une histoire. Il faudra qu'il y ait un chasseur, un loup. Tu sais, il te donnait quatre éléments par exemple, et tu devais faire une histoire avec ça et partir au travail. Et donc du coup, tu passais ta journée à imaginer qu'est-ce que tu allais écrire, etc. Et franchement, c'est ces petits trucs comme ça, ces petits challenges en fait qui nous donnaient, qui m'a donné, qui a créé en moi en fait l'amour de l'écriture. Donc voilà.
C'est marrant, hein. Ah, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, j'aime bien. J'écrivais aussi des petites histoires, tu vois. Mais moi, c'est plutôt, je lisais énormément et du coup, j'avais envie de faire pareil, tu vois, de moi aussi d'inventer des trucs. Mais c'est trop drôle le défi de ton papa, machin-là. Ça me rappelle, tu sais, les boîtes à histoire, la boîte à histoire que j'ai pris à ma
C'est
fille.
ça,
Tu
ouais.
choisis les personnages, machin, après, ça te fait une
Exactement,
histoire.
c'est ça.
Mais là, c'est encore mieux, c'est un autre level, c'est toi qui crée
C'est
l'histoire.
ça. Ah non, franchement, c'était excellent parce qu'après, ils nous faisaient des. Tu sais, ils nous mettaient avec mes frères et sœurs et chacun, il devait raconter l'histoire qu'il avait fait avec les mêmes éléments, tu vois. Et c'était kiffant. Et franchement, ben, ça, c'est ce genre de choses, tu vois, que ben, du coup, je reproduis avec mes enfants.
Mais tu me donnes des idées là.
Ah, mais de ouf, franchement, c'est super pour développer l'imagination, machin.
Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais, je vais tester avec ma fille, je te dirai.
Et petite astuce, quand les enfants ne savent pas encore écrire, justement, tu lui dis, je veux que tu fasses un dessin avec, ben, tu dis trois éléments, tu vois, trois ou quatre éléments. Et ensuite, l'enfant, il développe son imagination. Et au début, il saura pas trop, tu sais, genre, il va juste faire les trois éléments que tu lui auras dit. Par contre, à force de lui faire cet exercice-là, il va commencer à te faire autre chose. Il va développer, en fait, tu sais, sa créativité. Et vraiment, je l'ai remarqué avec ma fille qui savait pas encore écrire une histoire, donc je voulais pas la frustrer. Et je lui disais, ben, tu sais, quand je voulais qu'elle me laisse tranquille. Vas-y, va dessiner, tu sais, genre, je te donne une mission, tu dois faire ci, ça, ça. Et franchement, tu la voyais, après, à force, en fait, ça y est, maintenant, elle est fan de dessin, elle aime trop dessiner.
C'est bien.
Non, c'est beau, machallah.
Ah, c'est sympa. Et bah, du coup, donc, tu as commencé par l'écriture. Bah, tu vois, il y a toujours un fil rouge, puisque aujourd'hui, tu écris des comptines
C'est ça.
pour apprendre aux enfants les invocations. Et du coup, ouais, du coup, ça, toute cette imagination, toute cette créativité, elle te sert, quoi. Aujourd'hui, tu
Exactement.
l'utilises. C'est comme quoi, tu vois, il y a toujours un petit fil conducteur. Ma question, elle n'est pas inutile.
Franchement, non, c'est ouf. C'est vrai que quand tu poses cette question et que tu vois justement où est-ce que la personne est arrivée, tu te dis, ah ouais, subhanallah, c'est que vraiment, en fait, c'était quelque chose de profond, tu vois, dans ton cœur et de ce que tu es, tu vois. Et subhanallah, c'est beau de voir que ce soit de près ou de loin, tu restes toujours attaché à ton, comment dire, à ton truc de base, tu vois, à ton objectif de base.
Ouais, c'est pour ça que c'est tellement important de s'écouter. Parce que, en fait, quand on est enfant, on est, je sais pas, je pense qu'on est authentique, on n'a pas cet état d'esprit un peu négatif ou pessimiste ou ce manque de confiance en disant non, mais je vais pas y arriver, je vais échouer, mais je suis qui? Non, tu vois, tu kiffes un truc, tu le fais, tu vois. Voilà, j'aimais faire du roller, j'ai faisais du roller. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais du patin dans tes stories.
Yeah, c'est ça, patin à roulettes.
J'ai kiffé, je me suis dit, mais waouh! Moi aujourd'hui, franchement, j'aimerais bien m'y remettre, hein, mais tu sais, ça me semble. Voilà, tu vois, c'est genre moi, avec mon hijab et machin, en train de patauger comme ça en faisant du roller, je me dis, mais tu vois, alors quand t'es enfant, tu t'en fiches du
C'est ça.
regard, tu fonces, quoi. Et voilà, et du coup, en général, les passions qu'on a petit, bah, ça dit quelque chose de nous. Et c'est dommage qu'après, avec le temps, ben, on se déconnecte en fait de ça, de ce qu'on aime vraiment. Et puis, on se dit, ouais, non, c'est pas sérieux, non, machin. Alors que tu vois, tu écrivais des histoires. Aujourd'hui, tu vois, les adultes qui écrivent des histoires, ça reste quand même, qui vont au bout, ça reste quand même rare parce qu'ils ont des peurs, ils ont des machins, mais non, mais nanana, mais à quoi ça sert, mais est-ce que je pourrais être publiée, est-ce que t'es plein de... Alors que quand t'es petite, t'as envie d'écrire, bah, t'écris, tu vois. Donc,
Exactement.
enfin, alhamdoulilah.
C'est vrai que maintenant, ils vont le garder en mode, c'est une petite passion que tu sais, un hobby. C'est-à-dire que ta nature première et ta passion première, en fait, tu vas la garder de côté, en mode hobby, et tu vas pas l'utiliser pour toi-même et en faire quelque chose, enfin, l'allier en fait à ton travail ou à ce que tu aimes faire, tu vois. Et c'est vrai que de pouvoir faire ça, déjà, c'est un grand bienfait. C'est une facilité qu'Allah te met dans ta route si tu peux allier les deux. Mais je pense qu'on peut toujours, même si on le laisse de côté, au moins le faire pour soi-même, c'est important quand même de garder cette petite passion.
Ouais, c'est ça, rester connecté. Mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est-à-dire que voilà, moi, quand après le lycée, j'ai dit, voilà, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais vraiment le faire. Tout le monde m'a dit, on m'a regardé comme ça, on me dit, attends, t'es bonne élève, genre, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, va faire des études, médecine, ingénieur, machin, qu'est-ce que tu racontes, tu vas écrire des livres, c'est pas, voilà, c'est pas un vrai métier, c'est pas. Alors que c'était mon petit rêve, mais voilà. Et puis après, je m'étais toujours dit, par contre, voilà, je vais avoir mon diplôme. Tu vois, pour plaire à mes parents, un truc stable, un truc si j'ai besoin de travailler, voilà. Et puis à côté, peut-être que plus tard, voilà, c'était. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est toujours bien de rester connecté à soi. Et puis, je me dis, Allah SWT, il te donne des forces. Moi, j'aime bien dire, creuse, apprends à te connaître, regarde c'est quoi tes forces, tes qualités, là où tu es doué, là où tu as des choses, où tu as des facilités, et utilise tout ce que tu as dans le bien, tu vois, pour faire le bien, pour t'épanouir, et d'une manière ou une autre, connecte-la à aider la communauté. C'est comme toi, tu écrivais des petites histoires dans ton
Exactement.
coin, et puis aujourd'hui, machallah, tu aides la communauté, machallah, tu apprends aux enfants les invocations, c'est hyper noble, machallah, comme projet. Et tout en toi t'épanouissant, ça se voit que tu kiffes ce que tu fais. Hein.
C'est un
Je te
bonheur,
vois dans tes
franchement.
vidéos,
C'est
tu
un
t'éclates
bonheur.
autant que. Hein.
Exactement.
Ouais, inchallah. Est-ce que. Bah, tiens, j'hésitais entre parler d'éducation ou parler de la naissance des lumineux, mais vu qu'on parle un petit peu de tout ça, on va commencer plutôt par les lumineux.
D'accord.
Comment c'est né? L'idée, parce que, alors attends, on va juste. Donc là, tu étais une petite fille qui aimait écrire, qui était très créative, etc. Est-ce que tout au long jusqu'à aujourd'hui, quand tu as lancé les Lumineux, est-ce que tu étais toujours dans ce côté créativité, etc. Ou est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as fait comme étude pro, qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as toujours suivi cette voie ou est-ce que tu es partie ailleurs et ensuite tu es revenue?
Alors, bon, j'ai eu une vie assez. Je pourrais te dire que j'ai eu plusieurs vies, subhanallah. Mais quand j'étais jeune, ben, j'ai continué à écrire, à dessiner, à faire des, à chanter aussi, parce que mes parents, ils avaient une association. Et du coup, ma sœur et moi, on avait un groupe de Anachid. Et en fait, on faisait la première partie des, comment on appelle ça, la première partie des conférences. Donc, du coup, on chantait nos chansons qu'on avait inventées. Et donc voilà, tu voyais deux petites filles de 13 ans en train de chanter lors des conférences. Et bah, subhanallah, en fait, j'ai toujours grandi avec ce truc-là, en fait, cette habitude d'être sur scène, entre guillemets, de chanter, de faire. Bah, après aussi, j'apprenais le Coran, etc. Donc je récitais tout ça et tout. Et puis ensuite, bah, j'ai fait des études normales. Je me suis arrêtée en seconde. Et je suis partie travailler avec mon père. Donc mon père avait un restaurant, donc j'ai travaillé dans la restauration jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, du jour au lendemain, je suis partie. Enfin, j'ai demandé à mon père. J'ai dit, écoute papa, j'ai envie d'aller à Château-Chinon. J'ai envie de. En fait, je veux que du matin au soir, en fait, genre tout ce que j'ai à apprendre, en fait, c'est autour du Coran, autour de l'arabe, de la vie du prophète, tout ça. Tu vois, c'était vraiment une. J'ai toujours eu cette volonté dans mon cœur. Parce que bon, les études, franchement, c'était très compliqué pour moi. Je suis multidis. Donc, c'est vrai que le parcours scolaire normal, c'était très difficile. Je comprenais les cours, etc. Mais c'était hyper compliqué, en fait, de rentrer dans le moule et d'avoir une scolarité comme tout le monde. Et je me sentais, sincèrement, pour être tout à fait franche avec toi, je me suis sentie pendant toute mon enfance, hein, bête. J'ai toujours pensé que j'étais bête, que j'étais nulle, parce que j'avais des mauvaises notes. Mais pourtant, tu vois, quand j'étais à la maison, j'étais tout le temps valorisée par mes parents, j'arrivais à créer des choses de mes mains, etc. Mais tu sais, genre, il y avait quelque chose qui collait pas, tu vois. Genre, j'arrivais à apprendre le Coran, j'arrivais à apprendre plein de choses. Mais par contre, quand c'était scolaire, En fait, les matières où les profs donnaient vie au cours, j'étais à fond, en fait. J'arrivais à comprendre, j'arrivais à avoir des bonnes notes. Et puis, les manières très, très, les cours très magistraux, c'était mort. Franchement, j'étais complètement déconnectée. C'était vraiment, genre, mon cerveau se bloquait. Et c'est quand je suis partie à Château-Chinon. Donc, pendant toute cette scolarité, j'avais toujours ce truc dans ma tête de me dire, maman, elle m'a dit à Château-Chinon, maman, elle m'a dit à Château-Chinon. Donc, du coup, j'avais toujours ce truc en tête de un jour, tu vois. Mais je me disais que c'était inaccessible parce que je savais que ça coûtait cher, etc. Et puis, voilà, quoi. Et puis un jour, voilà, j'ai dit à mon père, écoute, papa et tout, j'ai envie de partir à Château-Chinon. J'ai dit à ma mère, pardon, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'ai envie d'aller à Château-Chinon, j'ai envie de que toute ma vie ce soit autour du Coran et de l'apprentissage de l'arabe, etc. Et ma mère, elle dit, oh, bah, écoute, Inch'Allah, peut-être un jour et tout. Ensuite, ça y est, moi, je repars travailler donc dans le restaurant de mon père. Et le soir, je reviens et ma mère a fait, écoute, j'ai discuté avec ton père et ton père, il a dit, ok. J'ai dit, ok, de quoi? Il a dit, ben, tu as taillé à Château-Chinon. Je l'ai regardé comme ça, j'étais choquée. Genre là, mon cœur, il commençait à palpiter et tout. On était en octobre et la rentrée, c'était en septembre, tu vois déjà. Et donc là, j'étais sous le choc et tout. J'ai dit, mais quoi, genre maintenant, là, genre là, je peux. Elle m'a dit, ben, écoute, si t'autorises à. Enfin, si l'école, en fait, ils acceptent de te prendre, voilà. Et là, je commence à appeler, à regarder, etc. Je suis arrivée à l'USH de Château-Chinon avec un mois de retard. Et le moudir, tu vois, le directeur, il nous a dit, à ma sœur et moi. Franchement, c'est très compliqué. On vous conseille pas de commencer l'apprentissage cette année parce que c'est très compliqué si vous connaissez ni Alif ni Ba et tout. Vous savez pas du tout lire parce que je leur ai dit, vous me prenez comme une reconvertie. Je ne sais pas lire l'arabe, je ne connais rien. Et donc ils nous ont dit, franchement, c'est très compliqué et tout pour intégrer la classe des débutants. Vous avez raté en fait toute la partie d'apprentissage des lettres. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas et tout. Il nous a dit, si vous vous engagez à rattraper votre retard, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, la fille qui est dyslexique, qui pensait qu'elle n'était pas capable d'apprendre, etc., etc., j'ai appris à lire l'arabe du coup en 3 jours. C'est-à-dire qu'on est arrivé le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, donc parce que comment on appelle ça? Le week-end, c'est 3 jours à l'ISH. Donc du coup, ça commence du Jumu'ah et ensuite t'es en week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, avec du coup une sœur, elle s'appelait Beya, mashallah. Elle nous a chaperonnés et pendant tout le week-end, on a appris, on a appris, on a appris. Et là, le lundi, j'étais là. Je suis arrivée et bah, du coup, on connaissait l'alphabet. On déchiffrait, hein, c'était pas un truc de ouf, mais en fait, on est arrivé au niveau des frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils avaient appris tout l'alphabet. Nous aussi, on est arrivé en mode c'est bon, on est OK. Et bah, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que non, en fait, quand c'est quelque chose qui te passionne et que tu aimes, wallah, Allah, il t'enlève toutes les barrières, en fait. Et ton cerveau, il s'ouvre à 100%. Parce que tu as des connexions et tout ton. Là, tu vis, en fait, pour ce. Enfin, tout ton corps, en fait, ton âme et ton cerveau, en fait, il vit pour la même chose, tu vois. Et lié au Coran, lié à l'Eden, tu vois, genre, t'es, dans ce cadre-là, c'était magique, entre guillemets, tu vois. Et c'est de là où tout est parti. Ben là, toute la facilité scolaire, j'ai réussi mes études à l'USH. Hein, je me suis éclatée, je me suis connectée avec le Coran et c'est là où je suis tombée amoureuse du Coran. Et puis de là, ben, alhamdoulillah, j'ai avancé. Voilà.
J'ai envie de rebondir sur plein de trucs. J'ai même pris des notes pendant que tu parlais. Ah là là, c'est fascinant. Déjà, je ne savais pas que tu es passée par Château-Chinon. Attends, c'était en quelle année? T'as quel âge déjà?
Alors,
T'as
j'ai
quel âge
28 ans. Attends, j'ai 28 ou 29 ans? J'ai 28 ans.
aujourd'hui? Jeune. Du coup, tu as 28 ans. T'avais quel âge à l'époque? Tu avais 19 ans, c'est ça? Non?
J'ai fait l'USH à 19 ans, il me semble.
À peu près. Ok. Déjà, machin là, tu étais toute jeune. En fait, tu as un peu le même parcours que Zainab, que j'ai reçu du coup
Ah
de
oui,
Cours Mon
complètement.
Cœur.
Ouais, c'est
Vous étiez
ça.
aussi à Château-Chinon et tout. Mais c'est incroyable parce que, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais ma bande de copines et nous aussi, on rêvait de Château-Chinon. On en parlait comme ça, tu vois, en se disant, ah ouais, Château-Chinon, ça serait trop bien, on va là-bas. Tu sais, il y a vraiment le côté, voilà, tu te consacres au Coran et tout. Donc, machin là, franchement, tu l'as réalisé, c'est un truc de fou. T'es resté combien de temps? Est-ce que tu as fait les 3 ans?
C'est ça. J'ai fait les 3 ans et puis après je me suis mariée, donc je suis partie de l'ISH, mais j'ai continué en distanciel, du coup. Mais à part avec l'ISH, j'ai continué avec l'IMED.
C'est incroyable, franchement, c'est tellement beau. Je trouve ça tellement beau que tu vois, t'es jeune. Franchement, faut dire ce qui est. Machallah, t'es jeune, t'es jolie, t'as tout ce qu'il faut. C'est le moment en fait où t'as envie de te dunia, sortir avec les copines, nanana, tu vas faire ce truc-là.
Ouais.
Et c'était pareil pour Zainab, tu vois. Et je me disais, et voilà, toi, t'as fait le choix. En plus, ça venait de toi, c'est toi qui voulais et tout. Et tes parents, alhamdoulilah, ils t'ont accompagné là-dedans. C'est vraiment génial qu'Allah la récompense. Et du coup, tu as cette volonté, tu as cette intention profonde de te consacrer au Coran, de finalement sacrifier un petit peu cette dunya et tout pour le Coran, pour Allah, de sacrifier un petit peu les, entre guillemets, les plus belles années. Après, c'était 3 ans et tout, mais c'est quand même 3 ans où tu aurais pu, je sais pas moi, faire ta life et tout, et tu choisis de donner à Allah. Mais je trouve ça tellement, tellement, tellement beau, quoi, tu vois, c'est mashallah. Qu'Allah te récompense pour ça. Et du coup, je comprends encore mieux, tu vois. Pour moi, encore une fois, c'est comme Zainab, quand elle m'a dit qu'elle était hafida, qu'elle a fait Château Chinon, en plus, elle a appris le Coran en 1 an et tout, truc de fou. Je me suis dit, je comprends mieux ton parcours, en fait. Toute cette baraka, toute cette facilité, toutes ces choses, malgré qu'il y a des épreuves et tout. Mais en fait, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est parce que, pour moi, ça vient de là, tu vois, de la relation
C'est
avec le
ça.
Coran. Ça ouvre tellement de portes.
Exactement, c'est vraiment vrai.
Je voulais aussi rebondir. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit, purée? Moi, j'écris des choses en prenant des notes. Ah oui, NH, en fait, ça m'a fait rigoler quand t'as parlé des groupes. Tu sais que j'avais mon groupe, enfin mon groupe, pseudo-groupe, hein, avec mes
Ouais.
copines. On allait dans les mariages, moi je faisais la darbouka, moi je chantais pas, hein, je sais pas
Ouais.
chanter, mais je faisais la darbouka, tu vois.
Mashallah.
Et elle chantait, c'était marrant. Mais du coup, ouais, c'est toujours voilà, le petit
Ouais, il y
lien.
a toujours des liens, subhanallah, c'est vrai.
Avec ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu m'as dit sur alors ça c'est super intéressant et vraiment je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices très jeunes aussi qui écoutent le podcast hein. Vraiment en fait tu vois tout ce que tu m'as dit à propos de la dyslexie, le fait que tu te sentais bête à l'école, le fait que voilà t'avais pas les bonnes notes et tout ça, en fait c'est tu vois c'est cet exemple là, je sais pas, on le voit passer sur les réseaux, le poisson à qui on dit de monter sur l'arbre, tu vois.
Ouais.
Toi, en fait, machallah, tu as plein de qualités, tu as plein de. Tout le monde, en plus, hein, chacun a ses spécificités, chacun a ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles, etc., etc. Et en fait, en général, au lieu de creuser à l'intérieur pour voir où sont mes qualités, pour faire en fonction de ça et faire mes choix pro et tout ça, même mes études en fonction de ça, en général, on nous dit non, 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 il faut rentrer dans le moule, les maths, le français, l'histoire
Exactement.
géo, tatati, tatata, tu vois. Après, tu galères. Et donc, ouais, donc, mais ce qui est bien, c'est que, voilà, alhamdoulilah, t'es pas resté trop longtemps à souffrir là-dedans. Et
Mais quand même, je pense que ça laisse des traces, hein. Ça laisse toujours des traces parce que c'est quand t'es tout petit, tu vois, tu
ouais.
commences ta scolarité, t'es, ben, des, bon, en maternelle, alhamdoulilah, c'est plus ce côté créatif, donc ça va. Mais c'est vrai qu'à partir du CP, je sais que c'est dès le CP, subhanallah, ça y est, j'ai vraiment senti que j'étais pas comme les autres et que ben, je me sentais nulle, en fait, parce que ben, quand tu fais la dictée, tu réussis pas, quand tu vois, et tu vois tes notes, tu vois
Le
les traits
rouge.
rouges, tu vois, voilà, c'est ça, le gros trait rouge du professeur. Et c'est vrai que quand ça te suit toute ta scolarité, pour moi, c'était logique. Tu vois, pourtant, mon frère, tu vois, c'est alhamdoulillah, aujourd'hui, il est dentiste. Et tu vois, mon frère, il excellait dans sa scolarité. Il a que des bonnes notes, etc. C'était vraiment le fils prodigue, entre guillemets. Et je comprenais pas, tu vois. Je dis, mais pourquoi, en fait, lui, il y arrive et ça a l'air si facile, tu vois, pour lui. Et puis moi, je suis là, tête en l'air. J'ai du mal à me concentrer, à me connecter, etc. Donc, non, franchement, c'est vraiment impressionnant, subhanallah. Et j'aimerais revenir à un truc qu'on était en train de dire. Tu sais, quand tu disais, ouais, tu sacrifies ta beauté, ta jeunesse, etc., pour aller à l'USH de Château-Chinon ou pour faire quelque chose qui est lié au Coran. En fait, j'ai envie de te dire que ça part en fait des parents. Tout part des parents, subhanallah. Et c'est vrai que à partir du moment où tes parents, en fait, ils font en sorte que le Coran, l'évocation d'Allah, ce soit quelque chose qui est lié au bonheur, en fait, et à la joie, que ce soit vraiment le bonheur de ton cœur, ben, automatiquement, tu vas être complètement déconnecté, détaché, en fait, des plaisirs mondains, des choses, tu sais, de dounia, entre guillemets. Tu sais, moi, mes parents, mon père, c'est un amoureux de la nature. Vraiment, tous les week-ends, on partait en randonnée, on partait à la plage, il avait un bateau, tu sais. Et c'est là où je vois, bon, franchement, je vais m'éparpiller, mais tu vois, les vrais Rajel, tu sais. T'es un père de famille, tu sais qu'il y a beaucoup de fitna dans les plages. Et ben, tu sais, nous on habite dans le sud, on habite à Toulon, à côté de Marseille. Et t'es un amoureux de la plage, tu veux que tes enfants ils aiment la plage, ils puissent nager, etc. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu donnes tout, tu travailles comme un fou. Et qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un bateau pour ta famille. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te mélanger aux plages avec les gens qui se mettent à moitié nus, etc. Tu prends tes filles, ta femme, tes fils, et vous allez où? Tu vas dans le large. Et mon père, ça y est, il a fait son permis bateau, il a pris son bateau, on partait dans le large. Et en fait, on ne dépendait jamais de personne. C'est-à-dire que tes yeux ne sont pas là à devoir regarder ben, ce qui n'est pas correct. En tant qu'enfant, en fait, t'es pas connecté en fait, avec ce monde, tu sais, cette pseudo-dounia. Et vraiment, c'est en tant que parent, si tu fais ce travail-là et t'essayes d'anticiper en fait tous les plaisirs mondains et tu fais en sorte que ce soit toujours légiférer, que ce soit correct, wallah que t'es capable, tu peux le faire. Et j'ai vraiment grandi comme ça, en fait. Mon père, il prenait le bateau, on partait tous en famille, en fait, et il nous trouvait des criques, tu vois, des criques perdues, tu vois. Et il levait l'ancre, tu vois, il jetait l'ancre dans l'eau, et puis ça y est, tu vois, genre, on commençait à nager, on allait jusqu'au sable dans la crique, tu vois. Et c'est impressionnant. Et vraiment, je pense que on s'est beaucoup trop détaché de cette capacité, de cette indépendance en fait qu'on peut avoir. On pense vraiment que on n'a pas le choix, ceci, cela, mais en fait, c'est toi en tant que parent qui va faire que tes enfants seront préservés ou non et seront attachés ou non en fait à certaines choses de Dunia, tu vois. Et donc pour en revenir à l'USH de Château-Chinon, mes parents ils me l'ont tellement toujours vendu comme quelque chose de oh, Château-Chinon, 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 tu vois, que pour moi c'était un endroit où tu avais plein de sœurs de ton âge, des frères, des sœurs, et que tu avais des professeurs, et en fait toute ta vie tu vivais autour du Coran, de l'islam, etc. Pour moi c'était le paradis sur terre, tu vois, parce que vraiment pour moi c'était ça qui m'animait. Mais pourquoi? Parce que mes parents ont planté dans mon cœur, tu vois, cette graine d'amour pour les vocations d'Allah, pour aussi la communauté, tu vois. Mes parents, comme je t'ai dit, ils étaient dans l'associatif. Donc, vraiment, mon cœur, il s'animait quand j'étais dans les conférences, quand j'écoutais, tu vois, j'étais jeune, donc j'écoutais pas forcément les conférences. Mais dans l'invisible, en fait, il se passe des choses. Subhanallah, ton âme, il se connecte, tu vois. Et vraiment, tu te nourris de ces ambiances-là. On sait, hein, les bienfaits qu'il y a dans ces ambiances, que les anges nous recouvrent de leurs ailes, etc. Et ça laisse une trace dans nos cœurs. Et ça, c'est une trace vraiment, que ce soit dans nos souvenirs, ou dans notre âme, vraiment, ça laisse quelque chose qui, à vie, en fait, portera ses fruits. Donc pour conclure sur ce sujet-là, alhamdoulilah, c'était vraiment pour moi en fait c'était un accomplissement, tu vois, vraiment d'aller à l'USH de Château-Chinon, c'était le bête de truc, tu vois. Ça m'intéressait pas de je sais pas de sortir avec des copines dehors ou autre, c'était vraiment l'USH quoi. Voilà.
Je suis très touchée par ce que tu as dit, surtout par la fin. Je suis un peu émue parce que ouais, je vois tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, subhanallah, encore une fois, on voit le rôle de tes parents. Alors, juste pour info, pour celles qui ne savent pas, moi, je l'ai découvert récemment, donc je vous l'informe. Mais Safia, c'est la fille de Dalila
Oui.
Lassawawish. Lassawawish, pardon,
Il
j'avais peur de.
n'y a pas de souci.
Subhanallah, et ta maman, c'est vraiment une personne qui est assez incroyable, nettement. D'ailleurs, j'aimerais trop la voir sur le podcast, mais je sais pas, ça me stresse, ça m'intimide. J'ose pas encore l'inviter.
Ah bah qui sait, franchement, avec grand plaisir, tu peux l'inviter, elle
C'est
sera
vrai?
vraiment touchée, ouais.
Ouais, parce que c'est une personne qui est incroyable, vraiment, qui est incroyable. On voit tout. Je pense que les gens, si le prénom ne vous dit rien, tapez son nom. Je vous mettrai dans les liens du podcast, je vous mettrai également son pseudo Instagram et vous allez reconnaître sa petite tête parce qu'on voit souvent ses petites vidéos sur l'éducation et tout. Et elle est d'une douceur, elle est, mashallah, elle est hyper inspirante, mashallah. Et d'ailleurs, mashallah, tu dégages la même chose, tu dégages la même douceur, tu dégages la même lumière, la même gentillesse et tout, mashallah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense.
Amen.
Là, on voit le rôle de l'éducation. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce que tu disais, c'est ce fait que ta maman, elle te prenait et puis elle te menait dans les conférences, dans les endroits où il y a l'évocation d'Allah, où il y a le rappel d'Allah. Et comme tu as dit, dans le monde du visible, voilà, où il y a les adultes, on parle, etc., on parle d'Allah. Et dans le monde de l'invisible, il se passe des trucs de fou. Il y a les anges qui nous recouvrent de leurs ailes, il y a la sakina qui descend, il y a la lumière, il y a plein de belles choses. Et en tant qu'enfant, même si effectivement tu comprends pas tout, voilà, tu es là, en plus tu es un peu distraite et tout, bon, tu es là, t'es pas en mode je vais dans une conférence, t'es en mode j'accompagne ma maman et puis je vais voir peut-être mes copines, des choses comme ça. Mais en fait, dans le monde de l'invisible, ton cœur, il est touché et c'est très beau ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a cette empreinte, il y a cette chose en fait qui va rester. Et subhanallah, encore une fois, en fait, on voit le rôle de l'éducation, le rôle des parents. Et j'ai trop, trop aimé également quand tu as dit, en fait, du coup, quand tu es partie à Château-Chinon, c'était pas en mode oui, je vais sacrifier ma dunya pour la akhira, je vais me sacrifier pour Allah et tout. En vrai, c'était waouh, ouais, j'ai trop envie d'y aller, tu vois.
Non, mais
C'est
c'est
le
ça.
mindset, c'est le bon état d'esprit et c'est incroyable, c'est génial. Et en fait, ça, c'est aussi le rôle des parents. C'est marrant parce que Zeynep me disait pareil aussi dans le podcast qu'on a enregistré. Elle me disait son père, il lui vendait, tu vois, le Qur'an. C'est un truc de fou, c'est trop bien. Tu sais, la première fois qu'elle est partie dans un cours d'arabe, il lui a dit, tu vas voir, genre, tu vas kiffer, c'est le meilleur moment de ta vie parce que tu vas apprendre le Qur'an, tu vas commencer à apprendre le Qur'an. Ça, c'était avant Château-Chinon. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle est partie avec cet état d'esprit. Du coup, quand elle était là-bas, même si les choses se passaient pas, c'était pas le rêve que son père lui avait vendu, parce que tu vois, voilà, tu connais hein, toi-même à l'ancienne, tu sais, les cours à l'ancienne et tout.
Ouais,
Elle me fait, mais tellement son père, il disait, mais c'est magnifique, tu vas passer le meilleur moment de ta vie et tout, parce que tu vas être avec le roi, là, tu vas apprendre, c'est incroyable et tout, que finalement, elle était conditionnée à voir que ce qui était bien et hop, 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 à ne pas voir le négatif, les trucs, tu vois. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment génial. Encore une fois, nous, en tant que parents, ça nous donne des tips, voilà, des choses vraiment que nous aussi, en fait, on transmette ça à nos enfants. C'est très beau, franchement, c'est vraiment trop beau, Sophia. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Même ce que tu as dit par rapport à ton père, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, qui va acheter un bateau et tout? Alors que, en fait, ça, c'est penser un peu en dehors des clous, tu vois. Oui, c'est nous, ça. On est là où on va se dire, OK, je peux pas aller à la plage parce que, voilà, il y a des fitaines et tout, donc on va pas y aller. Puis il y a cette frustration et tout. Non, ton père, il dit, OK, on va aller acheter un bateau.
C'est ça.
Là-bas, on va poser l'encre et tout. T'en parlais, j'ai l'impression que c'était un film, tu vois.
C'est ça, mais je te jure que, en fait, tu sais, genre, c'est de voir et de ressentir cette détermination, tu sais, une fois que t'es adulte, parce que moi, quand t'es un enfant, c'est de la normalité. Mon père, il a un bateau, et puis voilà. Et puis, c'est pas un yacht, hein. C'était un bateau qui a des plus simples. Hein. Alhamdoulilah, il y avait un petit, une cabine, etc. Tu sais, genre, mais c'est un bateau simple, alhamdoulilah. C'est plutôt que de dépenser dans des vacances, tu sais, on partait pas au bled ou quoi. Il a acheté un bateau et en été, on s'éclatait. On restait en France, mais c'était, les plus beaux étés, tu vois, le soir c'était barbecue, etc. Et vraiment, en fait, c'est ce mindset-là que beaucoup de musulmans, en fait, ont perdu en France. C'est-à-dire qu'ils vont se contenter de dire, mais non, là-bas, il y a de la fitna, tu peux pas, il y a la mixité, il y a ceci, cela, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et en fait, tu braques les enfants, et eux, en fait, ils voient quoi? Ils vont voir, en fait, que islam restriction, alors que non, Allah, il t'a pas interdit d'aller à la plage. Allah ne t'a pas interdit de découvrir, en fait, le monde. Au contraire, tu vois, tout dans le Coran, de nombreuses fois, tu vois, t'es amené à, justement, ouvrir les yeux, regarder la nature, contempler, etc., te connecter, tu vois, avec la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, le fait de se détacher de ce monde, etc., et de partir dans la nature, etc., au contraire, c'est recommandé. Et il faut arrêter, en fait, de se mettre des barrières et des limites parce que, justement, on est dans un pays qui ne permet pas, justement, qui ne prône pas la pudeur, etc. Non, en fait, alhamdoulilah, tu vas te creuser les méninges, c'est toi le rajah, c'est toi l'homme, tu trouves des solutions, tu vois. Ou c'est toi la mère, tu vois, tu vas trouver des solutions pour que tes enfants puissent kiffer, en fait, leur jeunesse. Et puis même toi, en fait, en tant qu'adulte, tu ne dépends pas des autres, en fait. Tu vois, tu dépends de toi-même. Et puis, s'il faut que tu travailles plus, tu travailleras plus. Tu mets les causes, tu vois, tu demandes à l'hospital, et puis après, tu vois ce qui te permet de faire, tu vois. C'est accessible, en fait. Il faut vraiment juste se détacher, en fait, de la norme, tu vois, de la norme, et de se dire, non, personne ne fait ça, c'est pas possible. Si, en fait, j'ai envie de le faire, je trouverai une solution, je le ferai. Donc, mon père, il travaillait comme un fou. Il s'était acheté son bateau, et puis après, basta, tu vois, tu passes ton permis bateau, t'as ton bateau, et t'es indépendant. Et pour conclure ça, subhanallah, pour te dire, mon père, il était tellement content, tu vois, de nous faire vivre ça, qu'à chaque fois qu'on était en conférence, tu vois, tu sais, genre, on y avait toujours des Parisiens, des personnes de Clermont-Ferrand, etc., de Lyon, etc. Et dès qu'ils créaient des affinités, ils disaient, écoute, viens cet été avec ta famille, on a le bateau, etc., tu vois. Et du coup, à chaque fois, on accueillait les familles chez nous en été, tu vois, c'était toujours des Parisiens, etc. Et en fait, on était toujours en mode touristique, tu vois, genre, et c'était, mais excellent, parce que tu vois, il y a des Parisiens qui ne partaient pas dans le sud ou autre, en train de découvrir la plage, mais la plage halal, tu vois, entre guillemets. Et c'était magnifique, franchement, c'est des souvenirs incroyables. Et j'aimerais bien rebondir sur, tu sais, tu disais que le papa de Zainab, justement, il lui avait tellement vendu du rêve, mashallah, il avait émerveillé, en fait, le côté apprentissage du Coran, etc., que quand elle partait dans les cours d'arabe, quand elle était jeune, elle voyait que le bon côté, tu vois. Et ben nous, c'est le contraire, tu sais, mon père, enfin mes parents, ils nous ont pas inscrits dans les cours d'arabe. Pourquoi? Parce que c'était tellement lié à des traumas, tu vois, genre, tu sais, genre, tu vas à la mosquée, ça pue les pieds, il y a 40 000 enfants, c'est pas le même âge, etc. On a fait un cours avec mes frères et sœurs, on était choqués, vraiment, c'était n'importe quoi. On est revenu, ma mère, elle a dit, c'est fini, vous n'y allez plus. Et donc, du coup, on n'a eu aucun lien avec l'arabe, l'apprentissage, etc., jusqu'à ce qu'on trouve, en fait, le bon lien, tu vois. Donc, ils ont préféré, en fait, complètement stopper, en fait, enfin, ne pas, en fait, nous mettre face à des dégâts et des traumas. Et franchement, au début, enfin, quand j'étais à Château-Chinon, j'en ai grave voulu à mes parents, tu vois. J'ai dit, franchement, tu sais, genre, on était tout le temps dans la da'wa, etc. À quel moment, en fait, j'ai 18 ans et je sais pas lire l'arabe, tu vois. Et en fait, c'est en prenant du recul, je me suis dit, mais oui, en fait, alhamdoulilah, parce que moi, avec mes traumas scolaires, L'arabe et le Coran n'a jamais été lié à ces traumas. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu affaire en fait à être face à des cours catastrophiques où on m'a jugé ou tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai commencé justement ce cheminement avec l'arabe et le véritable apprentissage du Coran, parce qu'alhamdoulilah, tu vois, ils nous apprenaient le Coran, etc. Mes parents, mais c'était pas dans des mosquées ou autres. Et c'est pour ça qu'on était plus liés à l'évocation d'Allah, tu sais. Ma mère, elle faisait des halaqas, tu vois. Donc, il y avait des sœurs qui venaient à la maison, etc. Donc, j'étais là, petite fille, en train d'écouter tous ces cours de religion depuis toute petite, tu vois. Même mes frères et sœurs qui étaient bébés dans le berceau, tu vois, ils étaient à côté de ma mère et ma mère, elle faisait son cours, tu vois. Et on était tout le temps, tout le temps, tout le temps collés à ces ambiances-là, tu vois. C'est ce truc qui te nourrit l'âme, subhanallah. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été connectée à l'évocation d'Allah, mais j'étais pas encore connectée au Coran et connecté à l'arabe. Et puis quand je suis allée à Château-Chinon, que j'étais connectée à ça, alors là, explosion d'amour. Et c'est là où vraiment, genre, ma vocation, là, ça s'est révélée, tu vois.
Non, mais ah là là là, c'est trop beau ce que tu me dis. J'arrête pas de répéter ça, mais parce que c'est vrai, je pense que ceux qui m'écoutent pensent pareil. Subhanallah, il y a plein de choses là qui me viennent. La première, déjà, c'était ce que je vais essayer de faire dans l'ordre. La première, c'était la contrainte stimule la créativité. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que mon mari me dit tout le temps et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que ton père, il est parti, il a cherché des solutions hyper créatives et je pense que c'est super important. Pour nos enfants, en fait, si nos enfants nous voient toujours dire non, 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 on peut pas parce que si, non, on peut pas parce que ça, et ben, tu les conditionnes à ce que eux plus tard, ils vont toujours se dire dans leur tête, ah ben, je peux pas parce que ça, j'ai des excuses. Alors que si tu leur apprends, ah, je peux pas aller à la plage parce qu'il y a trop, ok, on va travailler dur, on va acheter un bateau, on va aller à la plage et on va inviter des amis. C'est tellement penser en dehors de la boîte, encore une fois, tu vas penser en
C'est
dehors
ça.
des barrières et tout. C'est hyper inspirant et franchement, ça devient, voilà, c'est un beau modèle pour les enfants. Ensuite, par rapport au cours d'arabe, alors là, mais comment te dire, tes parents, ce là ils ont vraiment une grande sagesse et je pense que pour eux, ça devait pas être facile de faire ce choix parce que tu te dis, mais j'ai envie qu'ils apprennent le Coran, j'ai envie qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela, mais je trouve ça tellement sage qu'ils se disent, ok, on va pas leur donner de conditionnement négatif, tu vois, on va pas associer le Coran à des traumas, à des choses comme ça. On va les préserver, c'est pas grave, ils vont avoir entre guillemets un petit peu de retard, mais finalement, tout l'amour, tout. En plus, ils ont pas. Enfin, je veux dire, alhamdoulilah, tu vois, il y avait toutes les vocations, il y avait tous les cours que ta mère faisait, je veux dire, t'étais pas. Machin, t'étais déjà
Voilà, c'est
hyper
ça.
active.
On était liés à l'évocation d'Allah, alhamdoulillah. Mais c'est juste que l'arabe et le Coran, enfin le Coran, comme je t'ai dit, tu vois, ils nous apprenaient les sourates, etc. Alhamdoulillah, mais pas, on n'était pas en mode apprentissage du Coran, tu vois. J'ai vraiment commencé mon apprentissage à l'USH, tu vois.
Mais du coup, ils ont préservé, en fait,
Ouais.
ils ont préservé ça. Et du coup, tu avais tout cette. Même, peut-être même un petit peu la frustration de ne pas savoir. Bah, du coup, ah, tu es là, tu te
Exactement.
nourris, tu cours, tu es à fond et tout. Et c'est génial. Moi, je t'avoue que je fais partie de la team trauma un peu, tu vois.
Je
J'en parlais
comprends.
aussi avec Zainab et tout. À chaque fois que je fais des. À chaque fois que j'interviewe des personnes en lien avec le Coran, je leur parle toujours de ça parce que j'ai envie d'avoir leur feedback, leur retour, leur conseil
Ouais.
et tout. Parce que justement, tu vois, je suis partie à l'école arabe et c'était strict, c'était sévère, ça tapait, tu vois, des choses comme ça. Alors, je ne me suis pas fait taper, mais juste le fait d'être dans cette ambiance. Et moi, j'étais ultra sensible, ultra, il faut faire plaisir, ultra, j'avais tellement peur de me tromper que vraiment, quand je me vois, j'ai ce souvenir de moi toute rouge, j'ai peur, j'angoisse et tout. Et du coup,
Ouais.
l'apprentissage aujourd'hui, pour moi, l'apprentissage, c'est compliqué parce que j'ai ce rapport avec la. Pas avec le Coran, parce que j'arrive à lire, etc. Alhamdoulilah, je prends plaisir à lire, etc. Mais dès que je suis en mode apprentissage, j'ai un peu des blocages et tout, ça me stresse, je sens des pressions, j'ai des coups de chaud, quoi. Tu vois, c'est un peu
Ouais.
viscéral, tu vois. Et c'est là où tu te dis, ouais, ok, bon, il y a une espèce de trauma, je ne sais pas si on peut parler vraiment de trauma et tout, mais en tout cas, il y a un truc et je dois bosser dessus, je dois changer ma manière de voir les choses. Donc, je fais des petits efforts petit à petit, nanana, avec mes différents outils et tout ça. Mais je me dis, ouais, bah, c'est quand même dommage en fait, parce que tu pars avec un truc négatif plutôt qu'avec un truc positif. Après, alhamdoulilah, aujourd'hui ça a changé, les mentalités ont changé, c'est vraiment une autre ambiance et tout. Mais machin là, vraiment, en fait, je me dis, il y a beaucoup de sagesse, quoi, il y a beaucoup de hikma dans ce que tes parents ont fait. Et bah, toujours en parlant de l'éducation de tes parents, qu'est-ce que tu. Bon, tu nous as déjà donné plein de choses, hein, mais pour toi, qu'est-ce qu'est la chose. Parce que toi, aujourd'hui, tu es maman. D'ailleurs, tu es maman de combien d'enfants?
De deux enfants, donc
Ah, d'accord.
une de 7 ans et un de 3 ans.
D'accord, mashallah. En tant que maman, aujourd'hui, voilà, tu te préoccupes de l'éducation de tes enfants, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'éducation de tes parents? Et tu t'es dit, ah ouais, ça, aujourd'hui, avec du recul, à l'époque, tu trouvais ça normal. Mais aujourd'hui, tu dis, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais leur transmettre parce que toi, tu en as vu les fruits plus tard. Aujourd'hui, tu dis, ah ouais, heureusement qu'ils m'ont fait ça, ça, ça. Alhamdoulilah, tu vois l'impact que ça a eu positif sur toi et tu te dis, je veux faire pareil avec mes enfants.
Alors, je sais pas pourquoi je commence à être émue quand tu m'as demandé ça. Comment t'expliquer ça? Franchement, quand je pense à l'éducation que j'ai eue, enfin voilà, l'enfance que j'ai eue et ce que je veux reproduire en fait pour mes enfants, ben sincèrement en fait c'est j'ai tellement eu une enfance en fait remplie de bonheur, de joie et c'était vraiment tout le temps autour de l'évocation d'Allah, de l'amour d'Allah. En fait, je suis vraiment reconnaissante. Wallah, je suis reconnaissante, mais au plus haut point en fait des parents en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Et de l'enfance que j'ai eue. J'ai eu un modèle de père, en fait, qui était un homme, un vrai homme, qui a la tête sur les épaules et qui charbonnerait comme un fou, en fait, pour sa famille et qui nous a donné, en fait, les plus grandes des valeurs. Tu sais, mon père, c'est un artiste. Il écrit, c'est un poète. Il est merveilleux. Franchement, il est merveilleux qu'Allah le préserve. C'est un amoureux de la nature. Franchement, il est incroyable, subhanallah. Vraiment, il est tellement inspirant. Et tu sais, genre, j'ai grandi en fait avec ce père qui est un artiste et qui a planté en moi en fait ces graines d'amour, tu sais, pour l'écriture. Tu sais, genre, c'est pas juste il est artiste, il écrit dans son coin et puis, tu sais, genre, il va te lire des poèmes et puis basta. Non, en fait, tu sais, genre, viens ma fille, je vais t'apprendre à faire ça. Viens ma fille, je vais t'apprendre à dessiner, je vais t'apprendre à ceci, cela. Et en fait, cet amour pour la transmission, tu vois, j'ai commencé à la ressentir à ce moment-là, tu vois. Et bah c'est lui qui m'a donné l'amour de l'écriture, l'amour du dessin et l'amour de la nature. Parce que comme je t'ai dit, il était fan de nature et on partait tout le temps en randonnée, tout le temps on sortait bateau, etc. Et en fait, j'ai vu en mon père en fait un modèle masculin qui était incroyable. Bon, déjà c'est un Algérien, tu sais la détermination, tout ça et la fierté, tout ça, tout ça. Et subhanallah, en fait, tu vois en fait que un homme, un vrai, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que c'est dur maintenant de trouver des hommes en fait qui vont avoir ce mindset-là, de se dire que la terre, elle est vaste, Allah, il nous a donné tellement de choses, et alhamdoulillah, on va pas s'arrêter en fait à ce que les autres vont dire, tu vois, à ce que l'État va nous dire, etc. Alhamdoulillah, on va contrer, on va toujours trouver des solutions pour que mes enfants soient épanouis. Et en fait, j'ai vraiment vu des parents qui vivaient pour leurs enfants, tu vois. Que à partir du moment où t'es parent, il y a plus de toi, en fait. C'est plus question seulement de toi. Là, tu deviens, en fait, enseignant. C'est-à-dire que tous tes faits et gestes deviennent pour tes enfants, en fait. Tu vas être le modèle de tes enfants, tu vois. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, Safia, en fait, t'es juste en train de reproduire de manière 2.0, tu vois, parce que bon, il y a toujours eu des manquements. Hein. Je vais pas dire que c'était tout beau, tout rose H24, tu vois. C'était des Algériens, donc il y a des embrouilles, il y a des trucs comme ça. Mais franchement, enfin voilà, tu sais, genre, c'est vraiment des aléas. Et alhamdoulilah, le reste, c'était que du bonheur. Et en voyant ça, vraiment, ce que je reproduis avec mes enfants, c'est vraiment ça, cet amour de transmettre, cette volonté de créer des passions dans leur cœur, tu sais. De développer leur créativité, de développer leur art, de développer leur amour pour la nature. En fait, leur donner l'amour du vrai et les détacher en fait des trucs inutiles et éphémères, tu vois, de ce bas monde. Et donc du coup, s'il y avait des choses, ben c'est ça, la créativité, l'amour de la nature. Parce que maintenant, je suis une fan de rando et je développe ça avec mes enfants. Donc je les fais sortir, je les fais découvrir, etc. Et puis l'amour de la da'wa qui m'a été transmise de ma mère. Et ça, c'est incroyable parce que je repense, tu vois, toutes ces fois où j'étais assise comme ça en admiration avec ma mère, tu vois, elle était en train de transmettre, tu vois, toutes ces jeunes filles, tu vois, et je regardais ces filles avec admiration, tu vois, genre, elles avaient le hijab, elles étaient, tu sais, genre, en mode avec leur sac, leur téléphone, tu sais, genre, je me disais, genre, oh, quand je vais être grande, je vais être comme elle, tu vois, genre, en mode, je viendrai dans des cours, je m'asseyerai, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment ce que je veux reproduire. C'est-à-dire que je veux que mes enfants, ils puissent voir une mère qui passe sa vie dans la da'wa, qui sacrifie pour la da'wa et qui leur donne en fait que des choses utiles. Parce qu'en fait, quand tu agis comme ça, tu rends tes enfants autonomes. Déjà, ils pourront réfléchir par eux-mêmes, tu développes tout leur sens, leur créativité, etc. Et si jamais tu es amené à partir, parce que tu sais pas quand est-ce que tu partiras, alhamdoulilah, tu sais que tu leur auras laissé le meilleur des garants. Tu as tellement vécu avec l'amour d'Allah, tu les as tellement dopés en fait, avec cet amour d'Allah, qu'en fait, ils peuvent pas. C'est impossible en fait, de penser vivre sans, tu vois. D'imaginer en fait une seconde, je sais pas moi, t'asseoir, manger et ne pas évoquer le nom d'Allah avant de manger, ne pas évoquer le nom d'Allah avant de sortir, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est quoi? C'est que tu poses en fait tout l'amour que tu as, tout ton vécu et tout ce que tu as eu de tes parents, cet héritage en fait que tu as eu de tes parents, et tu le lègues à tes enfants. Et en fait, c'est là où tu acceptes en fait le décret d'Allah et tu te dis, je vous donne en fait tout ce que je peux vous donner, mes enfants, mais Comme ça, si jamais je suis amenée à partir, alhamdoulilah, je vous aurai donné tout le khair qui puisse exister en moi, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que je vois la parentalité et que bah, dès que j'ai eu ma fille, donc j'étais enceinte, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, OK, maintenant, Safia, t'es plus toute seule. Maintenant, tu dois faire en sorte que toute ta vie, elle tourne autour d'Allah. Et que toute la vie de ton enfant, en fait, tu sais, genre, c'est vraiment, tu sais, genre, t'es enceinte et t'as cette page blanche. Tu vois, je voyais vraiment ma fille comme cette page blanche, tu vois. Et je disais, OK, quelles sont les choses que j'ai manquées et qu'est-ce que je voudrais avoir et qu'est-ce que je voudrais faire, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit, OK, donc déjà, moi, tu sais, genre, j'étais une fan, j'aimais trop les invocations. J'ai découvert justement l'amour des invocations à l'USH de Château-Chinon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer toute seule, comme ça, tu sais, genre, à lire et à comprendre, en fait, c'était le mot Hisnul Muslim, tu vois. Genre, j'étais là, j'avais la citadelle à côté de moi et j'étais là en train de dire, attends, Hi-his. Et là, quand j'ai lu, je dis, tu vois, genre là, c'était la connexion, tu vois, genre vraiment l'étincelle, subhanallah. Et donc, voilà, j'étais fan des invocations, etc. Et en fait, je me suis dit, OK, Safia. Quelle est la chose qui peut faire que ta fille, donc quand elle naîtra, en fait, vraiment, j'étais enceinte de 2-3 mois, tu vois, qu'est-ce qui pourra faire justement qu'elle pensera à Allah au quotidien, tout le temps, en fait, qu'elle pensera à Allah dès le début, etc. Parce que franchement, tu sais, alors tes parents, tu te dis, OK, à quel moment, en fait, l'enfant conscientise la présence d'Allah? Et donc là, vraiment, je prenais du recul et je me torturais le cerveau par rapport à ça. Je me suis dit, OK, j'aime les invocations, bah, au lieu de les faire à voix basse, je les ferai tout le temps à voix haute. Donc dès qu'elle était dans mon ventre, déjà, je commençais à faire les invocations à voix haute. Pourtant, tu sais, genre, tu le fais à voix basse, normalement, tu vois, genre dans ta tête, tu fais, voilà. Et je me suis dit, non, je vais apprendre les invocations, je vais les dire à voix haute à chaque fois. Et quand elle va naître, pareil, je les dirai tout le temps à voix haute, etc., etc. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai voulu, bah, du coup, la faire vivre, en fait, avec l'évocation d'Allah, tous ces rappels-là. Tu sais, je me suis dit, c'est vraiment comme des panneaux signalétiques, tu vois, genre là, il y a un panneau de stop, il y a un panneau ceci, cela, et je veux vraiment qu'elle ait ce rappel constant. Donc c'est comme ça, en fait, que les invocations ont fait partie de notre quotidien familial. Et quand elle a eu 1 an, 2 ans, etc., je me suis dit, OK. Tu sais, t'es amenée à mettre ton enfant devant la télé, il y a les titounis, il y a ce genre de choses. Et franchement, j'étais jalouse. J'étais jalouse parce que je me suis dit, attends, moi, j'ai pas envie de. Pareil, tu vois, cette page blanche, j'ai pas envie de mettre ma feuille blanche, tu vois, devant des gribouillages, tu vois. J'ai pas envie qu'elle soit salie, qu'elle soit tachée, etc. Elle en a besoin pour son éveil, tu vois, genre des comptines, des gestes, etc. Elle en a besoin. Comment faire, tu vois? Bon, il faut savoir que je la mettais pas devant la télé, c'était juste, tu sais, genre les comptines sonores. Et je me suis dit, OK, comment faire? Et donc là, je me suis dit, ben non, en fait, les plus belles des paroles, en fait, c'est l'évocation d'Allah. Les plus belles des paroles, en fait, c'est. Parce que, en fait, quand je lui mettais des comptines ou des chansons, donc il n'y avait pas de comptines, il y avait des chansons islamiques, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, genre, c'est en anglais ou c'est en arabe, OK. Ou alors, il y a Bismillah au nom d'Allah et tu la mets en boucle 50 fois, tu vois.
C'est la seule.
Voilà, c'est la seule depuis 15 ans, tu vois. Et franchement, voilà, c'était face à ça en fait que j'ai ressenti vraiment une jalousie pour notre Oumma. Et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait que je suis là, en fait, je suis maman. La Oumma, elle existe voilà, en France depuis je ne sais combien de temps. Et personne s'est dit, oui, il faudrait faire des comptines pour nos enfants, pour les éveiller, tu vois. J'ai tellement grandi en fait avec l'islam d'amour, tu vois, genre vraiment, on évoque le nom d'Allah avec l'amour, etc., etc. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien pour nous, tu vois? Genre, réveillons-nous, quoi. Et donc là, j'ai dit, OK, bah, ma fille, je vais te faire des chansons pour toi. Je vais te faire plein de comptines et on va les chanter au quotidien. Et donc, c'est là que j'ai fait des comptines. Les invocations, je les ai faites sous forme de comptines, etc. Pourquoi? Ben, pour qu'elle soit éveillée, en fait. Pour lui créer ses connexions neuronales, etc. Pour qu'elle puisse vraiment vivre tu vois, de cet amour d'Allah, tu vois, par rapport à ses besoins, à son âge. Donc, dès 6 mois, elle était là. Tac, je faisais des gestes. Bismillah, ceci, cela. Et puis après, tu sais, c'est là où je me suis formée à la pédagogie Montessori, la parentalité bienveillante, les neurosciences, etc. Donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à m'instruire encore plus, tu vois. Et ensuite, ben, j'ai enseigné, donc j'étais maîtresse en maternelle, donc dans une école musulmane. Donc, au début, j'étais à la crèche. Donc, j'ai accompagné ma fille, en fait, depuis toute petite. Donc, elle était avec moi dans cette crèche-là. Et pareil, en fait, c'est là où on faisait les invocations avec des gestes, etc. On se mettait en cercle. Donc, en fait, j'ai pu mettre en pratique ce que je faisais avec ma fille. On l'a mis à ce moment-là. Et puis, ça marchait de ouf, en fait. Tu vois, que les enfants, en fait, ils étaient capables. Ben, en fait, ils sont capables de te chanter bateau sur l'eau. À quel moment, en fait, ils ne sont pas capables de faire des doigts, tu vois, ou de réciter des sourates, etc. Non, en fait, tu vois, tout petit, tu étais capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça sous forme de gestes, parce que c'est vrai que les enfants, ils n'ont pas forcément l'élocution nécessaire. Donc, Tu fais en forme de geste et en fait, dans sa tête, en fait, la sourate ou la chanson, en fait, elle y est, tu vois. Elle y est, c'est juste qu'il n'est pas capable, sa bouche n'est pas capable de suivre, en fait, ce qu'il y a dans sa tête, tu vois. Donc, les gestes lui permettent justement de ne pas le frustrer. Et là, mais c'était excellent. Donc, après, j'ai enseigné aussi en maternelle, etc. Et puis, c'est là où vraiment, c'était de plus en plus logique, tu vois. Bah après, il faut savoir que dès que j'ai quitté Château-Chinon, dès le début, en fait, j'enseignais, tu vois. J'enseignais l'arabe, le Coran, etc. Et bah, c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis vraiment focalisée sur l'enseignement de l'enfant et dans cette école à pédagogie alternative. Et c'était mais magnifique. C'était magnifique. Et donc, c'est là où les invocations, vraiment, elles sont... les invocations en chanson sont apparues, alhamdoulilah.
Waouh! Inch'Allah, j'ai trop envie de revenir sur deux choses qui m'ont beaucoup marquée avant de reprendre là où tu t'es arrêtée. La première, c'est quand tu as dit, subhanallah, que, attends, j'ai un petit bug, toujours j'ai un petit bug. Ça fait combien de temps là qu'on fait le podcast? Ouais, ça fait à peu près trois quarts d'heure. Attends, j'ai un petit bug, ça va revenir. Ouais. Non, oui, c'est bon, ça me revient. Tu sais, quand tu as dit, au moment où tu as ton bébé, là, t'arrêtes d'exister seulement toi en tant que personne et tout, mais tu te dis, je suis un modèle. Tout ce que je fais, en fait, je deviens le modèle pour mon enfant. Donc, tout ce que je fais compte. Et c'est un moment où tu te dis, OK, ben, on va réfléchir, on va se revoir. Ouh là là, on va faire un petit scan à l'intérieur. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais faire pour qu'il se rapproche d'Allah, comment, nanana. Et du coup, tu travailles d'abord sur toi, les invocations, je veux dire les invocations fortes, etc. Et ensuite pour ton enfant. Je trouve ça hyper, 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 hyper important, hyper intéressant. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a quand même beaucoup de mamans, machallah. Vraiment, il n'est jamais trop tard. Hein.
Oui,
C'est dur
en
de se dire.
effet.
Voilà, et puis de toute façon, c'est un travail qu'on fait sur soi sur le long terme, mais de se dire, OK, moi maintenant, en tant que modèle, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Parce que tu sais, ce qui est drôle, hein, c'est que beaucoup de personnes, moi, je me rappelle, en fait, une amie à moi m'avait dit il y a 10 ans en arrière, elle m'a dit, Oumaima, c'est fou. Elle était maman et plus âgée que moi. Elle m'a dit, Oumaima, c'est dingue. Aujourd'hui, chez mes enfants, je vois mes défauts. Je ne peux même pas leur reprocher parce que ce sont mes
Voilà,
défauts.
exactement.
Et c'est ça. Et du coup, ça m'a fait rigoler. Et aujourd'hui, je suis dans cette situation où je vois ma fille, elle a des défauts. Et je me dis, punaise, c'est les miens. Je ne peux pas dire pourquoi elle les a. En fait, c'est moi, il faut que je change pour qu'elle, elle change. Donc ça, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Je te remercie d'en avoir parlé. Et aussi, cette idée de. Les rendre autonomes pour que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala prend mon âme, eh bien finalement, tu vois, ça va, ils sont capables parce qu'ils ont ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont le plus important. Et ça, c'est un truc qui est difficile en tant que maman. Et je sais que l'angoisse de la mort, il y a beaucoup de personnes en fait qui angoissent de partir, même pas pour elles quelque part, mais surtout beaucoup aussi par rapport aux enfants en se disant, mais si je pars, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont faire? Qu'est-ce que machin? Mais en fait, on oublie que. Toi, transmets-leur le plus important. L'héritage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ilaha illallah, tu vois. C'est le Qur'an, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce lien avec Allah, la prière, etc. Et après, dis-toi que Allah, il est là, il va gérer, il va s'en occuper, tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est tellement important de se consacrer à ça. Moi, je l'ai vu avec ma mère. Ma mère, donc on est 8 enfants. Elle était très maman poule, elle était très. Mais elle est partie et vers la fin, elle était obligée de lâcher prise. C'était très, très dur pour elle de lâcher prise parce que c'était vraiment la maman qui gérait tout à la maison et tout. Mais à la fin, elle s'est dit, bon, de toute façon, je vais partir, je vais partir, je vais lâcher prise. Dans les derniers instants, j'ai senti qu'elle lâchait prise, qu'elle se préparait à partir. Et finalement, nous, on était tous paniqués. Moi, la première, j'étais paniquée. Alors, à la fois de perdre ma mère et tout, mais aussi de me dire, mais punaise, je vais me retrouver finalement bah, seule et je ne suis pas habituée. Moi, ma mère, tout le temps, je pose des questions. Elle est là, c'est mon soutien, c'est mon ci, c'est mon ça. Et du coup, elle part. Mais finalement, même dans le fait qu'elle soit partie, c'est une hikma d'Allah parce qu'il nous a appris à devenir autonome, appris à s'en remettre à lui plutôt qu'à s'en remettre à notre maman, tu vois, et à prendre conscience que, en fait, ma mère, c'est ma maman, c'est ma maman d'amour, et j'espère la retrouver au Firdaws, Allah au paradis, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais en fait, c'est Allah qui est le tout, et c'est en Allah que je fasse ma confiance, et c'est Allah, comment dire, en fait, quand tu as Allah, ben, tu as l'essentiel et tu as besoin de rien d'autre, tu as besoin de personne d'autre, tu vois. Et finalement, moi, le fait que ma mère est partie, ça m'a rendu responsable de ma vie au lieu de qu'on t'expliquait. Par exemple, avant, si je m'éloignais ou si je m'éloignais même de la religion ou si je m'étais dépêchée ou si j'avais des épreuves ou si quoi que ce soit, j'avais toujours ce truc de Oumia va faire des doigts pour moi et ça va aller, tu vois. Dans le sens où Oumia est tellement proche d'Allah que elle va faire des doigts et ça va aller, tu vois. Je sais pas, j'avais ce truc-là. Et le fait de plus avoir ma mère, bah, ça me responsabilise. Je me dis, non, mais en fait, c'est à moi de prendre ma vie en main, c'est à moi de prendre mon dîn en main, c'est à moi de faire en sorte, tu vois, c'est à moi d'invoquer Allah, c'est à moi de nous. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais
Oui,
ça le renforce encore plus, tu vois.
exactement.
Donc, tout ça, c'est pour ça que c'était super intéressant ce que tu disais. Et ensuite, ton petit cheminement, comme ça, tu as toujours ce petit fil rouge dans la transmission, tu vois, à la crèche, à la maternelle, toujours avec cette volonté de transmettre les invocations, cette idée de comptine avec les mains et tout. C'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu passes? Donc, tu es en maternelle, tu fais, donc j'imagine que tu apprends les invocations aux enfants, c'est un moment kiffant, tu sais, les enfants, ils apprennent en kiffant, et comme tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est le fait d'aimer, c'est le fait de d'aimer ce moment, que ce soit un moment merveilleux, que ce soit un moment plein d'amour, que ce soit un moment joyeux, l'apprentissage des invocations, et pas en mode, allez, allez, bismillah, il faut apprendre les invocations, il faut apprendre les sourates, tu vois, là on change de mood, tu vois, c'est plus, et t'as plus envie en fait. Voilà, donc toi, un peu intuitivement, juste comme ça, tu apprends en fait à transmettre ça. En plus, oui, tu m'as dit, tu te formais aux méthodes Montessori, neurosciences, donc on a toute cette connaissance. Subhanallah, aujourd'hui, on sait à quel point voilà, c'est important de leur apprendre avec amour, avec bienveillance, en s'amusant, etc. C'est comme ça qu'ils apprennent en fait. Et que dès que tu mets du trop strict, du trop de la peur, des machins, bah, tu les bloques en fait dans leur apprentissage.
Exactement.
Et perdent leurs moyens et nanani nan. Donc ce prendre là, donc comment est-ce que tu passes finalement de ça, de quelque chose que tu fais de manière intuitive, de manière voilà, à te dire, à avoir ce déclic de te dire, mais attends, je vais en faire, on va aller encore plus dans la transmission, je vais en faire un programme, je vais créer du contenu en ligne, je vais en faire quelque chose de plus grand en fait, qui touche vraiment la Ouma, tu sais, parce qu'en fait ce qui est bien, c'est que tu vois, autant quand tu es en classe, bah, tu es limité au nombre d'élèves que tu as, autant quand tu es en ligne, finalement, comme dit mon oncle, sky is the limit, tu vois. J'aime trop cette expression.
C'est ça.
C'est vraiment faire beaucoup. Ouais, comment tu fais?
Bah, en fait, comme je te disais, tu vois, j'ai toujours continué l'enseignement du Qur'an. Donc, en fait, quand dans cette école-là, j'étais assistante maternelle, etc., donc en maternelle, et je donnais cours de Qur'an à toutes les classes, tu vois. Et donc, du coup, en fait... Face à cet enseignement, alhamdoulilah, tu sais, quand tu es dans une école, ben, tu es un petit peu quand même contrainte à suivre, en fait, comment on appelle ça, les horaires, tu vois, genre le timing, etc. Tu as pas mal d'élèves, etc. Et en fait, ça ne me correspondait plus trop. Parce que je... Aussi, tu sais pourquoi est-ce que ma méthodologie, en fait, elle a aussi bien marché. Et ben, mes élèves, en fait, en Qur'an, etc., en fait, ils avaient ben, les résultats qu'ils avaient. Et puis, ils aimaient tous, en fait, le Qur'an. Ils étaient tous fans du Qur'an. C'est parce que j'ai tellement grandi, en fait, justement, avec des professeurs qui mettaient tout le monde dans le même bateau. Et j'ai tellement eu une scolarité catastrophique, en fait, que pour moi, c'était inacceptable, en fait, inadmissible, en fait, de donner un enseignement, en fait, tu sais, le même enseignement à tous les élèves. Chaque élève, en fait, a sa particularité, a ses besoins, a ses difficultés, ou alors a ses facilités, tu vois. Donc, dans ma méthodologie, je prends les élèves un à un, et chacun a son temps, son eye contact, tu vois, avec moi. Vraiment, on crée un vrai lien, parce que je suis le Qur'an face à eux, tu vois. Je suis l'émissaire du Qur'an. Donc, que ce soit ma manière de leur parler, le regard, tu vois, que je vais avoir, et le visage avec lequel je vais les accueillir, tout ça va être le Qur'an pour eux, tu vois. S'ils voient la maîtresse de Qur'an avec un visage fermé, ou peut-être qu'elle a mal dormi, tu vois, qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade, etc. Eh bien, toutes ces choses-là, en fait, vont créer des mini-blocages, tu vois. L'enfant, on le sait, en fait, dans son développement, il est très attaché au regard. Et tout se passe dans le regard, dans l'expression du visage. Et il suffit que tu arrives dans la pièce. Vraiment, je te conseillerais pas de faire le test, mais c'est vrai que si un jour t'es fâché, regarde à quel juste, tu sais, genre, tu ne parles pas, juste tu vas rentrer dans la pièce, en fait, et tu vas rentrer par exemple dans la chambre de tes enfants, et tu as un visage énervé. Tu vas voir qu'ils vont scruter ton regard, ton visage, les moindres mimiques, et ils vont commencer à, entre guillemets, à paniquer, à se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, elle est fâchée, elle est pas fâchée, tu vois, ou tu sais, genre, ils vont commencer à être dociles, etc. Et ça, c'est trop triste, en fait, de voir un enfant dans cette situation-là. Et en classe, en fait, c'est pareil. Quand tu arrives de manière brutale, brusque, ta manière d'arriver, ta manière de parler, tout ça, en fait, va être le Qur'an, tu vois. Donc, quand je viens avec les enfants, je n'ai jamais de hijab foncé. Toujours un voile coloré. Je m'interdisais, justement, d'avoir un visage fatigué. Toujours un visage souriant. Du début à la fin du cours, ils voyaient un grand sourire. Et voilà, tu sais, genre vraiment, genre, et c'est ce que je dis. Et maintenant, tu vois, je forme mes enseignantes, etc. Et pendant la formation, justement, je leur explique. Vous pouvez avoir l'état d'esprit que vous voulez. Vous pouvez être comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu allumes l'écran, où tu es face aux enfants, tu as un grand sourire, hijab, éclairage au top du top, justement, pour que, tu vois, en fait, toutes ces si ça, j'appelle ça la transmission silencieuse. Ça, vraiment, tout ce que tu vas être, en fait, tout ce que tu incarnes, c'est déjà le Qur'an. Donc, quelle que soit la manière dont tu vas réciter, etc., si jamais tout ce qu'il y a autour, en fait, tu n'as pas fait attention, ben déjà, tu donnes aux enfants, en fait, un mauvais bagage, tu vois. Donc, le Qur'an, c'est toi. Tu vois, tu es censé représenter le Qur'an, vivre le Qur'an, etc. Donc, c'est dans tout ce que tu es, en fait, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu incarnes, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que, alhamdoulilah, tu vois, la méthodologie que j'avais, que j'appliquais avec les élèves, elle marchait aussi bien. Mais dans cette école-là, du coup, comme il y avait les autres cours magistraux, donc il y avait, en termes de timing, c'était plus bon. Donc, j'ai préféré me séparer de l'école, du coup, à ce moment-là, tu vois, j'étais déjà influenceuse, entre guillemets, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je partageais, en fait, mon quotidien de maman, mon quotidien d'enseignante, etc. Et en fait, j'avais toujours les sœurs, tu vois, sur Douceur et Lumière qui me disaient, mais on rêverait d'avoir que nos enfants, ils aient une maîtresse comme ça, etc. Tu veux pas donner des cours en ligne, etc. Et en fait, pour moi, c'était impossible. Vraiment, c'était impossible. J'ai dit, mais moi, je fais vivre le cours, tu vois. J'ai besoin de qu'il y ait ce mouvement, ces gestuels. Je touche les enfants, tu sais, genre une petite caresse sur l'épaule, ce genre de choses. Des petits, tu vois, genre je caresse la joue, tu sais. Genre, c'est vraiment ces contacts-là, en fait, qui font encore plus aimer, en fait, qui créent des connexions invisibles et qui vont encore plus faire aimer le Coran aux enfants, l'évocation d'Allah, etc. Et donc ensuite, ben, du coup, j'ai arrêté avec l'école et je me suis dit, ok. C'est le moment pour moi, parce que je voulais pas arrêter complètement, tu vois, j'ai arrêté, je me suis dit, soit je crée mon institut, du coup, physique sur Toulouse, soit je vais dans le grand bain, et je me dis, ben, je permets justement à encore plus d'enfants de pouvoir bénéficier de ça. Et ben, je me suis dit, bismillah, j'ai fait istikhara, j'ai discuté avec mon mari, etc. Et je me suis dit, bon, ben, vas-y, bismillah, tu vas faire ça. Et j'ai réfléchi mon programme, j'ai pensé vraiment à toutes les choses, comment faire, c'était vraiment le challenge du siècle, tu vois, comment faire pour qu'un cours en ligne, pour que l'enfant, quand il allume son ordinateur, il se sente connecté à moi, connecté aux camarades, parce que je veux vraiment qu'il y ait cette ambiance de classe, etc. Ben, alhamdoulilah, la première année est passée, etc. Et ben, je te dirais mission accomplie, parce que les enfants, ils étaient mais vraiment complètement, jusqu'à maintenant, tu vois, genre ils sont vraiment fans, tu vois, genre vraiment, on coupe les barrières, en fait. L'écran, pour eux, c'est même plus un écran. En fait, j'ai tellement fait en sorte, tu sais, je demande aux parents qu'il y ait vraiment un espace dédié au Qur'an, ce soit pas genre l'ordinateur au salon, etc. Enfin, il y a toute une méthodologie, tu vois, dans l'institut, qui fait que les enfants, ils vivent le Qur'an, tu vois, genre vraiment, c'est tout est autour de ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon institut en ligne. Mais pour l'instant, il n'y avait pas encore les invocations. Les invocations, c'était encore quelque chose que je faisais avec mes enfants, que j'avais fait avec mes élèves, mais c'était pas, tu vois, c'était juste, en fait, c'était tellement simple pour moi et tellement logique que je me suis dit, ben non, je vais pas le, il n'y a pas besoin, tu vois. Mais c'est en voyant, tu sais, en partageant, ben, comme je te le disais, en partageant avec les parents, les mamans, etc., elles me disaient, mais c'est trop bien, je ne savais même pas qu'il y avait des invocations à dire. Tu sais, les adhkar sabah, les adhkar masa, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, tu vois. Que le musulman, en fait, il a un panel d'invocations à dire le matin qui lui permet justement d'être protégé par Allah toute la journée, etc. C'est des recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en fait, tu fais grandir tes enfants, en fait, ils n'ont même pas ce bagage-là. Alors que c'est la base des bases, et franchement, si tu donnes ça à ton enfant, déjà tu lui donnes des racines solides, tu vois, genre vraiment il avance dans la vie avec Allah dans son quotidien. Et c'est vraiment ça, en fait, l'essence de ma mission, c'est vraiment faire en sorte que les enfants vivent avec l'amour d'Allah, que ce soit quelque chose de naturel et d'inné. Et ça passe par les parents, malheureusement, tu vois. Mais je sais tellement que les parents, en fait, sont déjà conditionnés autrement, que du coup j'ai envie de créer cette connexion directe chez l'enfant. Tu vois, j'ai pas envie de passer par le parent, etc. Je me suis dit non, là, cette histoire, c'est entre moi et les enfants. Tu vois, c'est entre moi et les élèves, et on va les rendre autonomes dans leur pratique, que si maman, elle est fatiguée, ou si papa, en fait, il a pas le temps, etc., c'est pas grave. T'inquiète pas, papa, t'inquiète pas, maman. Alhamdoulilah, Anissa Safia, elle a mis tout en place pour que je me débrouille toute seule, tu vois, toute seule ou toute seule. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'après, j'ai décidé, donc j'avais fait mes cours de Qur'an, etc. Et après, tout au cours de l'année, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer justement un pack et faire en sorte que, alhamdoulilah, un maximum d'enfants puissent vivre avec les vocations d'Allah, etc. Et c'est comme ça que les invocations lumineuses sont arrivées et que j'ai pu créer tout ce monde et tout cet univers autour de l'évocation d'Allah.
Waouh, mashallah. Hey, laisse tomber, c'est trop bien. Moi, déjà, j'ai trop aimé quand tu m'as dit que voilà, tu vois, subhanallah, c'est tellement, comment dire, c'est trop beau le fait de dire même mon hijab, je vais le choisir en fonction de ce que je veux dégager, de ce que je veux incarner pour leur faire aimer le Coran. En fait, de dire, c'est pas seulement le « allez, viens, on va réciter », enfin, c'est pas ce... En fait, tout compte. Finalement, toute l'énergie, toute l'ambiance, tout le truc un peu invisible, en fait, ça compte aussi. Et on va tout valoriser, on va tout réfléchir, on va tout... Enfin, c'est vraiment beau, hein. Moi, je m'en serais pas douté, tu vois. Et ouais, jusqu'au choix du hijab, ça m'a marqué. je trouve ça vraiment génial. Et donc, subhanallah, encore une fois, voilà, du coup, tu lances l'institut, tu commences par le Coran. Et après, petit à petit, tu te tournes vers les invocations lumineuses. Franchement, c'est incroyable. Tu t'es lancée en quelle année? Ça a commencé quand, en fait?
L'année dernière. Ça fait deux. Là, on est sur la deuxième année de Douceur et Lumière Compagnie.
Ah, d'accord, ok. Donc, tu as commencé avec... Oui, parce que moi, je te voyais pas beaucoup. Enfin, c'est récemment que je commence à te voir, à voir ton profil, etc. Ouais. Donc, c'était l'année dernière que tu as commencé l'Institut. Et cette année, tu as lancé les invocations lumineuses.
Non, c'est tout au long de l'année dernière, vers décembre en fait. J'ai ouvert l'Institut en octobre et ensuite en décembre, j'ai lancé les invocations lumineuses. Parce que je me suis dit en fait, ok, le Coran c'est nécessaire et c'est bien, mais là en fait, il faut que les enfants ils vivent avec l'amour d'Allah, tu vois. Et c'est là où j'ai encore plus pris conscience en fait de ma mission en fait et de ce que je pouvais apporter aux enfants. Et je me suis dit non, là. Le Coran, en fait, déjà, il y a beaucoup d'enfants pensent que le Coran, c'est seulement un temps dans la journée ou ce genre de choses. Donc, déjà, il faut déconstruire ça chez le parent. Mais vraiment, là, je me suis dit, OK, là, il faut faire en sorte que les familles... C'est que, comme il y a l'amour d'Allah, tu vois, au quotidien chez moi, je veux que toutes les familles puissent ressentir et vivre la même chose parce que c'est possible, en fait. Tu sais, quand tu entends ton enfant avoir une conscience en Allah de ouf, tu vois, subhanallah, tu te dis, mais... Ça, je veux que mes enfants ils vivent avec d'autres copains qui pensent comme eux, tu vois. Parce qu'il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas se dire que ma mission s'arrête à mes enfants, ma famille, etc. Non, en fait, ce que tu peux apporter aux autres, justement, fais-le. C'est ça, en fait, la trace que tu laisses en fait en ce monde. C'est quelque chose qui puisse améliorer en fait, et faciliter le quotidien de la Ummah. Parce qu'il faut se dire que la da'wa, soit c'est une da'wa dans le khair, soit ça va être une da'wa du monde extérieur qui va amener... Tes enfants, ils apprendront dans tous les cas des choses. Donc, soit tu décides que tout ce qu'ils apprennent et les personnes qu'ils côtoient aiment Allah et vivent avec l'amour d'Allah comme eux, soit tu décides, ben, dans ce cas-là, que tes enfants, ok, ils auront cette foi forte ou cette confiance en Allah, mais les personnes qu'ils côtoieront, en fait, ce sera pas, tu vois, ce sera pas trop ça. Donc, créons un noyau solide pour, justement, que toutes les familles puissent avoir ben, des petits lumineux et des enfants qui évoquent Allah. Parce que c'est grâce à ça, justement, qu'ils grandiront, justement, avec une confiance en Allah qui va être incroyable.
Et laisse tomber, là, j'ai envie d'arrêter le podcast, j'ai envie de prendre une feuille et de noter plein de trucs, parce que j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour mes filles. Ah, c'est trop bien, c'est trop inspirant. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu as dit, ouais, on va aller directement chez les enfants, on ne va pas passer par les parents, après leur interprétation, leur trauma, leur machin, leur... Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils arrivent bien? Hop, toi, tu vas direct vers les enfants. Je trouve ça génial. En plus, franchement, on ne va pas se mentir. En tant que parent, c'est le top. Hein.
Bah, exactement. C'est ça. En fait, vous êtes, on est tous, hein, on est tous happés par nos vies. On n'a pas forcément le temps. Et en fait, les bonnes résolutions des parents, ça ne dure qu'un temps. Tu vois, c'est genre, ça va être la rentrée. Tu vas te dire, OK, on va faire ça, on va prendre un temps pour un rituel, ceci, cela. Mais en fait, on ne va pas se mentir. Malheureusement, en fait, très peu de fois ça fonctionne. C'est-à-dire que ça va durer un temps et puis il suffit que tes enfants ils soient malades ou que toi tu es malade pour qu'après le naturel il revienne au galop. Et je me suis dit non, en fait, là on est encore sur ces pages blanches, sur ces pages vierges, et si on leur donne justement tout clé en main, c'est eux en fait, tu sais, genre ils ont envie d'évoquer Allah, et ben ils le feront, tu vois. Ils vont pas dire maman fais le Coran avec moi ou maman pense à Allah avec moi, non. Et tu sais ce qu'on a eu l'habitude de faire, c'est que il y a un triangle en fait qui se crée. Au lieu de, dans la relation avec Allah pour l'enfant, dans la tête de l'enfant, il ne va pas se dire, il y a moi et Allah. Nous nous sommes rendus en fait intermédiaires entre le Allah et nos enfants. C'est-à-dire que mon enfant, pour passer par Allah, il va d'abord passer par moi. Mais moi, je suis capable de rien, mon enfant. Si tu veux quelque chose, demande directement à Allah. Tu n'as pas besoin. Allah, il est tout proche de toi. Tu sais, Allah, peut-être qu'il est encore plus proche de toi que de moi. Donc, demande à Allah et Allah, il va te faciliter. Et ensuite, tu fais les causes, tu viens vers moi. Et en faisant ça, là, tu donnes vraiment à l'enfant, en fait, les outils pour avoir sa vraie relation avec Allah. Et c'est pour ça qu'on est des adultes qui sommes cassés et qui allons d'abord vers les causes au lieu d'aller vers Allah, etc. Que notre tawakkul, il est éclaté. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas appris, en fait, à avoir notre relation avec Allah. Sauf que cette relation, elle se crée dès l'enfance. Ils ont déjà leur fitra, en fait. Leur cœur, il est déjà plein d'amour pour Allah, tu vois. Donc, eux, leur vision des choses, en fait, ils sont déjà, tu sais, moi j'appelle ça l'islam enchanté. Quand tu es petit, de 0 à 6 ans, en fait, tu es vraiment dans l'islam, en fait, on va te dire, Allah, il te donne des cadeaux, Allah, il te donne des hasanats, etc. Tu sais, genre, ta foi, elle est déjà forte parce que ta fitra, elle est neuve, tu vois. Donc, toi, en tant que parent, tu as juste à continuer à attiser la flamme, tu vois, et alhamdoulilah, tu vois, elle sera de plus en plus forte, tu vois. Et c'est ça que je veux faire, c'est que je veux faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas besoin de papa ni de maman pour croire en Allah. Et que si maman s'en va ou papa s'en va, ta vie ne s'arrête pas là. Tout ne s'effondrera pas. Parce que tu auras le plus important avec toi. Tu auras Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut apprendre à nos enfants justement cette chose. Et nous, c'est difficile, mais on doit apprendre à se retirer, à rendre nos enfants autonomes pour que pour eux, en fait, ce soit logique de s'ils ont quoi que ce soit, ils perdent son jouet, il se fait mal, etc. D'abord, j'invoque Allah. D'abord, je demande à Allah. Allah est capable, maman. Toi, tu n'es pas capable. Toi, tu seras capable que si pas Allah, il est capable, tu vois. Et c'est vraiment que si Allah te l'autorise, tu pourras le faire, etc. Et c'est en mettant ça, parce que je peux te dire que maintenant, ils l'ont compris. Hein. Mes enfants, mashallah, ils me le disent, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique. Vraiment, quand tu vois que la fitra de tes enfants, elle est encore plus forte, que l'amour en Allah qu'ils ont et la confiance, la vision d'Allah qu'ils ont, elle est mais incroyable. Tu te dis, mais c'est ça, tu vois, c'est ça l'islam, c'est ça la vraie pratique, tu vois, la vraie et la bonne pratique, subhanallah.
Waouh, mashallah, franchement, merci beaucoup pour ce que tu me partages. Tu me partages là
Merci.
des pépites, mais des pépites magnifiques, vraiment. Moi, sachant que je suis en plein dedans, tu vois, ma fille, elle a 6 ans, ma petite dernière, elle a 2 ans. Et ça m'inspire, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Et tu vois, je me rends compte aussi, tu vois, de mes manquements à moi, parce que je me dis, non, je me dis, je suis pas. Ma fille, elle a 5 ans. En plus, là, je culpabilise parce que je me dis. J'aime trop hein, ton idée de ton, ta notion de islam enchanté. Je trouve ça trop trop beau, trop mignon. Et je
Merci.
me dis ouais, elle arrive à ses 6 ans et je trouve que j'en ai pas fait assez, tu vois. Je sens que je l'ai pas transmis ce truc. Donc j'espère qu'il n'est pas trop tard que je
Jamais.
pourrai bosser dessus, inchallah. Et
Franchement, je
ouais.
peux te le dire, il est vraiment jamais trop tard. Et ce que j'aime dire aux enfants, aux parents, parce que là, tu vois, quel que soit le temps, à partir du moment où toi, tu en as pris conscience, c'est bon, tu vois, tu as tout compris. Mais en fait, il faut inclure, tu vois, les enfants dans ce changement de cap. C'est-à-dire que, tu sais, genre, tu peux clairement discuter avec ton enfant, lui dire, tu sais, je trouve qu'on n'est pas assez Allah au centre de nos vies. Tu sais que, voilà, c'est Allah qui est capable de toutes choses, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses si maintenant, ben, on va se mettre à faire les invocations tout le temps au quotidien, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et en fait, l'inclure dans ce changement de cap, eh ben, ça lui permet de comprendre aussi que ben, tes parents étaient faillibles, en fait, et tu apprends constamment. Et vraiment, j'aime à rappeler aux parents, en fait, de montrer, en fait, cette part de faiblesse, en fait, et de dire que ben, je ne suis pas parfait, mon enfant, mais je me réforme, tu vois. Et que toi aussi, en fait, tu seras amené à avoir des manquements dans ta foi, dans ta pratique, etc. Mais alhamdoulilah, tu vois, tu vas te réformer, tu vas avancer, tu vois.
Ah, c'est trop intéressant. Ouais. Ah, merci, hein. Merci pour ce précieux conseil.
Avec plaisir.
Il y en a qui se reconnaissent en moi, tu les as aidés aussi. Voilà ta récompense.
Alhamdoulillah.
Et donc, en fait, dans le pack des lumineux, qu'est-ce que tu proposes exactement? En fait, du coup, c'est vraiment toutes les invocations, c'est les invo enfin, comment
C'est ça.
tu...
En fait, c'est le Hisn Muslim,
Ouais,
clairement.
merci.
Il n'y a pas encore toutes les invocations, mais là, les invocations primordiales dans le quotidien d'un enfant, en fait, elles y sont. Et en fait, c'est toutes ces invocations-là, en fait, sous forme de comptines. Donc, tu vas avoir des gestuels. Déjà, tu vas me voir dans les vidéos. Donc, dans chacune des vidéos, tu vas voir, ben, en fait, on crée un lien, tu vois, de confiance et d'amour, en fait, avec les enfants. Donc, ils me voient, il y a le eye contact, il y a la gestuelle, etc. Donc, du coup, les enfants, ils sont connectés directement. Donc, pareil, je suis dans un univers enchanté, tu vas avoir
Ouais, j'aime
un
bien les
fond,
petits dessins.
voilà, c'est ça, un joli fond derrière, etc. Et en fait, dès le début, en fait, on va dans une aventure. Donc là, dans le premier épisode, déjà, tu vas l'enfant, donc je lui dis, vous savez, les enfants, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Cette chose extraordinaire, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a donné. Mais vous savez, les parents, avec leurs occupations, avec le temps, etc., ils l'ont complètement oublié et délaissé. Mais vous êtes les super lumineux. Et donc là, je leur dis que leur mission, ça va être de revivre justement cette confiance en Allah et cet héritage du prophète. Et donc là, les enfants, ils se disent, mais c'est quoi cet héritage du prophète, tu vois? Et en fait, là, je crée l'amour et je crée la hâte dans le cœur. Parce que quand tu fais ça, tu sais, c'est comme si quelqu'un, il avait envie de courir et tu le retiens, tu le retiens, tu le retiens. Et après, tu le lâches, tu vois, et après, il va faire un bête de sprint. Ben, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, en fait, dans l'enseignement de quelque chose. D'abord, je crée la hâte dans le cœur. Comme le prophète Aïssa Sallam, il faisait toujours comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ceci, cela? Et là, les compagnons, tu sais, genre, ils sont très excités. Et puis après, là, il leur raconte. Eh bien, écoutez, il vous suffit de faire ça, 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 ça. D'abord, tu parles du mérite. Et après, tu balances la sauce. Et donc, du coup, voilà, le premier épisode, déjà, j'explique aux enfants, voilà, qu'ils sont dans une mission, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, qu'ils vont faire partie des lumineux, tu vois, d'une, tu sais, la communauté, etc. Donc là, pareil, en fait, c'est toutes ces choses que j'ai apprises, tu vois, avec le temps, avec les neurosciences, etc., et les pédagogies alternatives, qui ont fait que, alhamdoulilah, j'ai créé, entre guillemets, tu vois, le programme, normalement, si il le permet, tu vois, genre, c'est un truc de ouf. Et franchement, avec toutes les personnes, tous les retours qu'on a, etc. C'est pour ça que, regarde, ça fait que ben, 1 an et demi, bientôt 2 ans, que Douceur et Lumière Compagnie existe. Et ben, ça y est, là, on a déjà pété le score, tu vois, machallah. Vraiment que des retours, des familles qui sont de plus en plus nombreuses, etc. Et vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit, mais waouh, tu vois, subhanallah, se rendre compte que ça sert autant et que ça a autant de succès, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Tu te dis, mais... Alhamdoulilah, tu vois, là, tu as pris part dans quelque chose qui va accompagner les enfants. C'est-à-dire que maintenant, les enfants, ils se détachent complètement de Titouni et tu les entends chanter, en fait, des choses qui leur font prendre conscience de la présence d'Allah, etc. Donc là, tu crées des enfants solides, tu vois, de la mini Oumma, franchement, de demain, elle va être...
Voilà, tu sèmes des petites graines, tu vois,
compris,
chez les enfants. Ouais, tu les prends quand ils sont tout petits, en fait, en bas âge et tout, le moment, et tu sèmes des graines, et après, c'est avec le temps, mais là que ça va... Mais moi, ça m'étonne pas que Douceur et Lumière et Les Lumineux, ça a ce succès-là, parce que déjà, il y a un vrai besoin. Ouais. Ensuite, on va pas se mentir, bah, en fait, ton programme, il est unique, tu vois, je veux dire, ouais. Autant tu peux avoir des programmes, des choses pour le Coran, etc., voilà, mais c'est vrai que par rapport à l'idée que tu as eue, elle est unique. Moi, j'avais jamais vu quelque chose comme ça, machallah. Et c'est un besoin et c'est fait en fait super bien et c'est super agréable. Moi, j'aurais des petites vidéos à toi, c'était trop mignon. C'est toi qui avais fait les dessins derrière ou pas?
Je fais tout.
C'est vrai.
Ouais, je fais tout.
Ah, bah, dis donc,
tu revois le côté créatif, le côté dessin.
Ouais, c'est ça. Il y a tout l'univers. En fait, ce que j'aime, c'est que vraiment de ce que j'entends et de ce que j'avais vu aussi, c'est que dès qu'on met un petit pas dans cet univers-là, voilà, il y a le côté islam enchanté. C'est féerique, ça donne envie, ça met des étoiles dans les yeux et tout. Et les enfants, ils ont besoin de ça. En plus, on va pas se mentir, moi, ma fille, elle va à l'école, tu vois. Ouais. Et surtout, c'est que je te dis, moi, je sens le manquement et tout, parce que ma fille, elle va à l'école, elle aime trop la chorale. Tu sais, ils leur apprennent les chansons et tout, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Elle les connaît par cœur, elle aime trop ça. Alors voilà, on lui met pas la musique, les machins, les chansons, etc. à la maison, mais crois-moi qu'elle les connaît tous, parce que, en fait, en plus, je crois qu'elle les entend vraiment pas tant que ça, et puis hop, elle les retient super vite et tout. Oui. Et voilà, ils aiment ce truc-là. Donc, en fait, quand tu utilises ce qu'eux, ils aiment spontanément comme ça, tu vois, et que tu l'utilises pour leur inculquer des valeurs, pour leur apprendre des invocations, pour les apprendre, j'aime tellement quand tu dis que finalement, il n'y a plus ce triangle, mais il y a ce lien direct. On leur apprend non, pas besoin de passer par maman, tu parles à Allah directement, t'as ouais, cool, invocation. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu connais les invocations, ben, t'as une force, t'as une armure en toi, t'as une force, t'as quelque chose, t'as une richesse, t'as quelque chose qui fait que t'as pas peur. Moi, je vois bien ma fille, on était à la pharmacie, mais laisse tomber, je disparais un court instant. Elle panique totalement. Pourtant, on est dans la même pharmacie, je suis juste un autre rayon. Elle ne me voit plus, elle panique, elle pleure, maman et tout. Et pourtant, bon, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai répété à ce moment-là, je lui ai dit, mais Laïa, qu'est-ce qui se passe si jamais, maman, vraiment, tu ne la vois plus? Qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala, tu récites le Fatiha, tu fais des doha, tu demandes Allah, tu as Allah avec toi, tu as toujours Allah avec toi. Maman, elle peut disparaître comme ça et tout, mais toi, il ne faut pas avoir peur parce que tu as Allah avec toi, il est là avec toi. Bon, j'essaie de lui transmettre et tout, elle a quand même paniqué. Mais voilà, c'est vrai que c'est super important, ouais, de cultiver ça et de nourrir ça, et avec les invocations tu le fais d'une manière, c'est comme le Coran. C'est pour ça que moi je parle souvent de mon blocage d'apprendre, et j'ai tellement envie d'apprendre le Coran, parce que je me dis, mais quand tu as appris le Coran, tu as cette richesse à l'intérieur, personne ne peut te l'enlever, et demain il t'arrive un truc, tu es seul, tu es perdu, je sais pas quoi, il t'arrive des trucs de fou et tout, mais en fait t'as pas peur parce que t'as toujours cette connexion avec Allah, notamment à travers le Coran. Tu vas pouvoir te réciter des choses, tu vas pouvoir te donner de la force, tu vas pouvoir de créer un truc fort avec un... Je ne sais pas comment expliquer, mais
Ouais,
tu as
ouais.
cette richesse que personne ne peut t'enlever. En fait, avec les invocations, tu as cette richesse que personne ne peut t'enlever.
Exactement.
C'est machin là, c'est vraiment trop bien. Là, je vais passer sur autre chose par rapport à ton organisation. Donc, en fait, aujourd'hui, tu es maman, tu es donc entrepreneur, tu es lancé dedans, parce qu'il faut se dire, hein, il y a la création de contenu, il y a les gens sont
Ouais,
pas contents, hein. C'est pas juste créer un joli pack, tu vois.
ouais.
Je sais que ça demande un taf de malade dans les coulisses. Donc, comment tu fais pour t'organiser en fait ce que tu as. Alors, toi, comme tu es une créative et tout, je me reconnais un peu dans ton profil, hein, tu es une créative, etc. Est-ce que tu es du genre à faire un peu au feeling faire... J'imagine que je te vois pas, toi. Je sens que je la sens bien carrée, bien organisée, tout ça, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout. Est-ce que toi, tu es en mode organisé, bien carré, ou est-ce que tu es en mode un peu freestyle, énergie, machin?
Alors, de l'extérieur, je parais très organisée et très carrée, mais absolument pas. Je fais tout au feeling et je vis tout au jour le jour. Vraiment, s'il y a un truc qui change pas, ça va être les invocations du quotidien, etc. Mais tout le reste, ça va être au feeling.
Tu me
En fonction de
rassures.
ce qui va se passer, si je vais passer une bonne nuit, si ça, je vais avoir beaucoup de travail, etc. En fait, c'est parce que justement, j'ai un quotidien qui va à 2000. Que j'ai créé justement des méthodologies qui me permettent justement de ne pas rendre mes enfants dépendants à moi, tu vois. Genre, moi, je suis faillible, les enfants, donc comptez sur vous pour compter pas sur moi, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui régit mon quotidien. Il y a les invocations que les enfants vont faire et que je vais faire, du coup, en étant en speed, tu vois. Genre, ça, en fait, les invocations du quotidien, en chanson ou autre, tu vois, t'as pas besoin de te poser. Donc, même si tu es en train de courir et que, faut que tu fasses la machine et faut que tu prépares les affaires des enfants parce que là, vous allez partir à l'école. Vous pouvez quand même chanter les Adhkar al-Sabah et voilà quoi, tu vois. Genre, ils mangent le petit-déj, soit je mets l'audio des épisodes, parce que du coup, dans le pack, il y a, comme je t'ai dit, la présentation, etc. Et en fait, chacun des épisodes, il y a les Adhkar al-Sabah, il y a la chanson de quand tu es triste, chanson de quand avant de manger, etc. Donc en fait, tous les moments du quotidien, tu as la chanson avec l'invocation qui est là, tu vois. Et ça te rappelle aussi une hikma, une recommandation sunna du prophète, etc. Donc franchement, c'est tu conscientises grave le pourquoi de l'invocation, tu vois. C'est pas juste tu apprends une doha, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, je veux vraiment que mes enfants comprennent et placent leur confiance en Allah. Donc dans la chanson, il y a le moyen, en fait, de conscientiser l'information. Et donc voilà, la chanson est en français et l'invocation, elle est en arabe. Et bref, donc du coup, dans ma vie de speed, c'est comme ça que je fais. Donc, on fait les invocations du quotidien. Moi, je suis en train de courir, je suis à la ramasse, chartota, ce que tu veux, tu vois. Et ensuite, en fonction des jours, il y a l'apprentissage du Coran, il y a les cours de Coran que je donne, etc. Il faut savoir que je suis maman solo, donc ça rajoute une organisation encore plus, une responsabilité, une organisation encore plus intense. Mais alhamdoulilah, mais en fait, quand tu as Allah au cœur de ta vie, alhamdoulilah, même si voilà, tu as une journée très compliquée ou autre, tu es bien.
Alhamdoulilah. Ah, bah ok, bon, je vois un petit peu, ouais. En fait, je pense que tu es un petit peu comme moi. Est-ce que tu ressens que parfois tu as des moments où, je sais pas, peut-être parce que tu as bien dormi, tu es bien et tout, tu as une super énergie, tu es super, je sais pas, tu sens cette espèce de créativité, ce truc. Du coup, tu vas pouvoir faire vraiment pas mal de choses, bien bosser, être productif, bien avancer. Il y a des moments où peut-être tu as mal dormi, tu es fatigué, tu as un peu moins le moral, je sais pas. Ça chute un petit peu, du coup, tu es un peu moins productif, et du coup, tu t'écoutes, tu essaies un peu de lever le pied. Après, c'est que tu es aussi prof, donc je pense que tu es quand même cadré par des horaires.
Oui, après, en fait, tout ce qui régit justement mon travail, etc., alhamdoulilah, enfin, le côté institut,
Ouais.
donc les jours d'enseignement, les jours de cours, etc., là, je suis hyper carrée, toujours en avance, etc. Enfin, ça, c'est le cadre de travail, ça ne change pas. Mais après, tu sais, la partie réseaux sociaux,
Oui.
la lumière compagnie, tu vois, la partie vidéo, montage, etc., c'est cette partie-là, tu vois, qui va être un peu plus compliquée à... Que, dont, pour laquelle je vais avoir du mal, en fait, à avoir de la régularité, tu vois, à être bien cadrée, parce qu'en fait, tout dépend de mes enfants. Il faut savoir que moi, je me suis
Ah.
imposé quelque chose, c'est que quand je suis avec eux, je ne touche pas à mon téléphone. Quand je suis avec eux, je ne parle pas de... Je ne suis pas en mode boulot, je suis simplement leur maman. Je leur donne le maximum de choses que je puisse leur donner. Et puis ensuite, quand ils sont à l'école, donc à partir du moment où je les dépose à l'école, là, je travaille, je fais mon temps de maison, mon temps de ce que j'ai à faire. Et ensuite, quand je les récupère de l'école, là, je pose le téléphone et je redeviens leur maman. Et c'est vraiment, ça, c'est important parce que le temps qui passe, tu ne pourras pas le rattraper. Et la présence, en fait, active que tu vas avoir avec tes enfants, le fait de les regarder, etc., ça, c'est quelque chose un fléau en fait qui apparaît vraiment malheureusement aujourd'hui, c'est que ton enfant il va te parler, tu auras l'écran rivé, enfin ton regard rivé sur l'écran parce que tu es en train de truc. Ah oui, ah c'est intéressant, d'accord, ok, tu vois. Genre le fait d'être constamment greffé à ton téléphone, faut pas te dire que oui, mon enfant il a pas de téléphone, il en aura que quand je voudrais, etc. Mais en fait, quand il va l'avoir, il va reproduire exactement la même chose. Et c'est ça en fait qu'il faut se rappeler, c'est que l'héritage que tu laisses à tes enfants, c'est pas le jour où tu vas faire ton testament, tu vois. L'héritage que tu lui lègues, c'est toute l'éducation que tu es en train de faire, toutes les aspirations que tu as, tout ce que tu fais, tout le quotidien que tu as. C'est ça, cet héritage. Et c'est ça qui va les construire. Donc, tu peux pas, en fait, te dire, moi, ma fille ou mon fils, je veux pas qu'il soit attaché au téléphone, je veux pas qu'il soit attaché aux écrans, etc. Si toi-même, en fait, c'est l'image que tu montres, tu vois. Donc, il faut que tu te cadres, il faut que tu te fasses forcing en fait et que tu te dises ok, donc mon temps de travail c'est de telle heure à telle heure. Après, à partir du moment où ils sont en lit, si tu veux retourner bosser, etc., tu le fais, tu vois. Mais si jamais tu as raté ce temps-là, tant pis pour toi. Tu n'ouvres pas ton téléphone, tu n'ouvres pas ton ordinateur et tu t'es débrouillé, tu vois. Mais voilà, cette organisation que je me suis faite l'année dernière, faut savoir que c'était pas celle-là, tu vois. Justement, j'étais sur mon téléphone, j'étais beaucoup parce que je venais de divorcer. Donc du coup, c'était voilà, j'étais en train de travailler, j'étais dans le rush, tu sais, genre tout ce qui se chamboule, etc. Donc, c'était assez speed. Mais ce que j'apprends à mes enfants, à travers moi-même, en fait, c'est que maman, elle peut être faillible. Donc, je vais avoir des manquements, je vais avoir des fois où je vais être trop sur mon téléphone, où je vais trop travailler ou autre, ou parfois je vais crier, etc. Mais demain, je changerai, tu vois. Demain, ça ira mieux. Si aujourd'hui, ben, je n'ai pas eu un bon comportement, je vais en discuter avec mes enfants. Et ils savent très bien que demain, je vais me réformer, tu vois. Et c'est ça, en fait. Il faut être dans cette réforme constante et de montrer à nos enfants que. En fonction des baisses de foi, tu vois, alhamdoulilah, ça peut aller comme ça ne peut ne pas aller, tu vois. Mais l'important, c'est vraiment, voilà, de tout faire pour donner le meilleur de toi-même, pour mettre Allah au cœur de ta vie. Et alhamdoulilah, tu vois, tant que t'as ça et que tu as ce noyau central, en fait, montrer aux enfants, en fait, que tu peux pas faire comme si tu étais parfait. Et si tu montres ça, en fait, tu imposes à ton enfant la perfection, alors qu'il ne peut pas l'être, tu vois. Tu peux pas demander à ton enfant d'être parfait alors que toi-même, tu ne l'es pas. D'accord? Donc vraiment en fait, et en montrant cette fallibilité, ce fait qu'on se réforme, etc., et ben automatiquement l'enfant il a le même mindset, tu vois, il va penser comme toi. Donc il va se dire ok ben aujourd'hui franchement j'étais pas très bien ou ça s'est pas bien passé à l'école, ben demain je ferai mieux, tu vois. Et automatiquement en fait il est dans cette réforme personnelle, tu vois. Je sais que j'ai bien agi ou j'ai mal agi, demain je ferai mieux ou de la semaine prochaine ça ira mieux, etc., etc. On travaille sur ça. Donc voilà, donc l'organisation actuelle, alhamdoulilah, c'est ce que je m'impose. Donc, tant de travail quand ils sont pas là. Et quand ils sont là, je suis simplement leur maman et on vit des moments familiaux magnifiques.
Franchement, Safia, merci, 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 merci infiniment pour ce que tu viens de partager avec nous. Vraiment, je trouve que c'est vraiment merci. J'ai juste ça. J'ai envie de te prendre dans mes bras et te dire merci.
T'es
Je
un amour,
promets.
Inch'Allah.
Parce
Avec
que
plaisir.
c'est. Parce que moi, je suis en plein dedans, tu vois. Moi, je suis trop sur mon téléphone. Voilà, je suis trop sur mes trucs. Dès que je fais des petites tâches, même quand je fais, par exemple, la cuisine et tout, j'ai souvent mon téléphone, j'écoute un podcast, et machin. Mais en fait, je suis trop connectée. Moi, je pense clairement que je suis addict, hein, vraiment. Je me dis, c'est pas possible parce que je suis trop prise là-dedans, tu vois. Et je me faisais, en fait, la réflexion ces derniers temps. Bon, je l'avais toujours dans un petit coin de ma tête, mais là, je me le faisais vraiment. De me dire non, c'est pas bon parce que là je suis en train de donner. Mes filles, elles me voient faire ça, tu vois. Elles me voient connectée à mon téléphone comme ça. Elles me voient tout le temps accrochée avec. Et je me disais, mais purée, en fait, je suis en train de leur transmettre. Je suis en train de leur transmettre ça, en fait. Le jour où, comme tu as dit, elles vont avoir accès à un téléphone, aux écrans, moi non plus, tu vois, on n'a pas la télé à la maison, tout ça. Je me dis, ouais, je me disais, c'est bien de pas avoir la télé, c'est bien de pas de dire, ok, nanana, on va. Mais après, si toi, tu es accroché à ton téléphone, voilà, tu vois. Et du coup, j'aime beaucoup là, ce que tu viens de dire, parce que c'est tellement bienveillant, enfin, ça déculpabilise un peu, parce que je pense que je suis peut-être pas la seule parmi les auditrices, peut-être qu'il y en a d'autres qui nous reconnaissent. Mais quand tu dis le fait de se poser, de parler avec les enfants, de dire les choses, tu vois, ça, franchement, je pense pas que j'y aurais pensé. Moi, je le voyais comme un travail solo. Je me voyais comme disant, voilà, il faut vraiment que je fasse un effort sur moi-même. Voilà, que, comme tu as dit, en dehors des heures d'école, ben, je pose mon téléphone et à la rigueur, je reprends quand elles dorment, mais vraiment quand elles sont là. Le pire, c'est que, tu vois, au début de mon mariage, je le faisais. Je me rappelle qu'au début de mon mariage, je trouvais ça irrespectueux que je suis avec mon mari et puis j'ai mon téléphone. Je me disais, ça se fait
Exactement.
pas. Quand je suis avec lui, je pose, voilà, je prends pas de coup de fil, je traîne pas sur WhatsApp, je traîne pas sur les réseaux sociaux. Voilà, quand il est au travail et tout, ok, je fais ce que je veux, mais quand il est là, je me disais par respect pour lui, pour passer des moments de qualité, je le fais pas. Et puis après, petit à petit, avec le temps et tout ça, bah voilà, je me suis... Et puis comme je te promets, hein, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'addiction un peu vraiment négative et tout, truc de dopamine, c'est dès que t'es pas bien, dès que t'es stressé, ah, je vais aller sur YouTube, je vais aller écouter un podcast, je vais aller voir des stories Insta pour avoir un pic de dopamine pour aller mieux. Je pense que j'ai créé des espèces d'addictions comme ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Mais là, franchement, en parlant avec toi, j'ai vraiment une grosse prise de conscience et je me dis, mais attention, attention à ce que je suis en train de faire. À la fois, je me fais du mal à moi, mais le pire, c'est que je fais du mal aux filles. Et surtout, dans ce que tu viens de dire, là, et qui me parle, et qui est une grosse prise de conscience, c'est que je me dis, ce travail, je peux ne pas le faire seule, mais je peux le faire avec mes filles. Tu vois, je peux en parler avec mes filles. Et pas non plus dire, quand tu vois maman avec le téléphone, tu me fais le rappel. Tu vois, quand j'ai oublié, tu peux me dire, maman, tu te rappelles de ce qu'on a dit. En fait, la faire participer à ça.
Exactement.
Et vraiment essayer de. Ouais, et puis comme tu as dit, on est faillible. Et puis même, j'aime beaucoup quand tu dis que dans cette démarche-là, on apprend à l'enfant lui-même à comment est-ce qu'il réagit quand lui-même il fait des erreurs, quand lui-même il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Le fait qu'il soit là, et hop, discussion, remise en question, discussion, on prend des décisions, on fait des efforts. Les jours où ça va, alhamdoulilah, les jours où ça va pas, hop, on en reparle, on refait des efforts, on lâche pas et tout ça, plutôt que d'être dans un truc, soit c'est parfait. Soit je lâche tout, je culpabilise, nanana. Et voilà. Et puis ça me rappelle aussi un petit peu là, du coup, moi je sais que dans mon cas, je sais aussi qu'il y a toujours ce travail que je dois continuer à faire sur la gestion des émotions, etc. etc. tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça qui ça reflète. Hein. Moi personnellement, dans mon cas, je le dis au cas où il y a d'autres qui m'écoutent, mais c'est que je suis tellement attachée à ça, c'est que je sais que quelque part, je cherche à fuir mes émotions, je cherche à fuir des inconforts, des trucs à l'intérieur où je suis pas bien et tout. Et au lieu de me confronter, d'accepter, de me centrer sur moi, je vais. Essayer de refouler tout ça, toc, 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 et vite, je vais sur le téléphone. Ou, tu vois. Après, il y en a, moi, c'est le téléphone, il y en a, ça va être la nourriture, il y en a, ça va être. Tu vois, il y a plein de trucs. Hein. Mais enfin, bon, bref, voilà, c'est juste une petite piste pour dire, ça peut être. Le problème peut être un peu plus vaste.
C'est ça, exactement.
Ouais. En tout cas, voilà, que leur fait d'avoir partagé ça. Mine de rien, c'est quand même une organisation. Hein. Y a un cadre, tu vois, le fait de dire, je savent quand ils sont pas là.
Oui.
J'ai mes horaires fixes de transmission de Qur'an, etc. etc. Enfin voilà, il y a un truc quand même. Donc, mashallah, c'est merci d'avoir partagé ça avec nous.
Avec
Et
plaisir.
j'ai une petite question de fin. Est-ce que tu as encore 10 petites minutes? Parce que là, on a
Ah, moi,
parlé. Ouh.
j'ai toute la journée, donc il n'y a pas de souci. On peut déborder, pas de problème.
Je voulais savoir, est-ce que, par rapport au Tawakkul, est-ce que tu as une anecdote un jour où tu as décidé, tu as fait un choix difficile ou bien tu as fait un sacrifice pour Allah ou tu as décidé finalement de placer ta confiance en Allah et tu l'as pas regretté, tu n'as pas été déçu, au contraire, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus? Je sais pas.
C'est toute mon histoire. Alors, en fait, comment expliquer ça? La fois où justement j'ai eu à me livrer complètement à Allah, et bah, c'est lié à toute mon histoire, et c'est lié à Douceur et Lumière, c'est lié à mes enfants, à ma famille, c'est que je t'ai parlé du modèle de mon père, du modèle familial que je m'étais imaginé, et que je voulais justement créer avec mon ex-mari. Et en fait, bon, après 8 années de mariage, alhamdoulilah, tout ça, tu sais, genre, tu as des aspirations, tu espères à certaines choses, etc. Tu essaies de créer, en fait, tu vois, ta famille et ton cocon solide. Or que, tu vois, genre, ce mouvement familial, ces moments en famille, ces moments d'évocation, etc., je me suis retrouvée à le faire toute seule parce que, bah, du coup, du côté de mon ex-mari, ça ne suivait pas. Pour plein de raisons, alhamdoulilah, c'était quelqu'un de très très bien, hein, qu'Allah le préserve, et vraiment, c'est un très très bon papa, alhamdoulilah. Seulement voilà, donc c'était pas ce à quoi j'aspirais pour mes enfants, et bon, pour plein d'autres raisons, alhamdoulilah, j'ai demandé donc le divorce, parce que justement, pour moi, en fait, une famille, en fait, t'es censé vivre pour Allah, et que toute ta vie, tout ton quotidien, en fait, soit pour l'évocation d'Allah, pour l'amour d'Allah, etc. Et du fait que comment dire, ma vie ne tournait pas autour d'Allah, ou la vie familiale et ce qu'on allait apporter aux enfants n'était pas comme ça, j'ai pris la lourde décision, hein, de me séparer de mon ex-mari. Voilà, donc on en a discuté, tout ça, etc. Et en fait, lorsque j'ai lancé Douceur et Lumière Compagnie, donc j'étais encore mariée, et j'ai lancé en 2 mois. Donc Douceur et Lumière, l'institut, tu sais, quand je t'ai dit j'ai quitté l'école, etc. Je me suis dit, ok, Safia, il faut qu'en septembre, tu aies ouvert ton institut. Tu sais, on était dans une situation, mais financière, problèmes familiaux, etc. Dans une situation, mais un truc de ouf, hein, vraiment, genre, c'était, tu étais étouffée. Vraiment, c'est, voilà, pour pas rentrer dans ce qui est personnel, etc. J'essaie vraiment de, ce qui peut être inspirant, je vous le transmets, et je demande aucun jugement, évidemment. Mais voilà, parce que franchement, ça peut apporter. J'ai tout abandonné pour Allah. C'est-à-dire que ben, tawakkul à 100%. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, Safia, là, c'est ta mission de vie. Donc, tu vas te concentrer. Et donc, pendant les 2 mois d'été, du matin au soir, j'ai bossé d'arrache-pied pour ben, monter le programme et pour faire, en fait, créer ce programme des lumineux, en fait, de Qur'an, etc. Et voilà, c'était dur. Il y avait des problèmes, il y avait des soucis, etc. Il y a eu des décès autour de moi, etc. Donc, c'était très douloureux, très difficile. Et voilà. Et franchement, je me réveillais, c'était que Allah, Allah, Allah. Et franchement, c'était un truc de ouf. Disputes, problèmes, etc. Franchement, j'étais que focus. Et je me suis dit, OK, là, je me livre à toi, là. Et donc, du matin au soir, je travaillais sur les tafsirs parce que j'avais mis en place des explications de toutes les sourates pour les enfants, etc. Donc, vraiment, j'étais, il y avait tous mes masahifs sur le lit et sur le bureau, tu vois. Et je bossais que dans ça. Et donc, le jour où j'ai ouvert l'institut, donc Douceur et Lumière Compagnie, la même semaine en fait. Donc déjà, alhamdoulilah, il y a une grande somme qui est rentrée, qui m'a permise de rembourser toutes les dettes que l'on avait avec mon ex-mari, etc., tous les problèmes financiers, etc. Et ben, Allah a fait que ben, du coup, c'était le jour aussi où je devais me séparer de mon ex-mari. Donc une situation a fait que c'était la chose de trop, etc. On s'est séparés. Et à partir de ce jour-là, Allah a pris soin de moi comme jamais. J'ai été heureuse comme je ne l'ai jamais été. Et aujourd'hui, hein, je peux le dire, je suis heureuse parce que je n'ai jamais vu en fait à ce point en fait à quel point Allah rend les choses faciles quand tu t'abandonnes à lui. Tu sais, genre tu peux, tu sais, genre tu vis dans la frustration, tu vis dans des difficultés, dans des épreuves, etc. Et puis vous avez personne ne peut savoir, tu vois, dans quelle est ma situation, le pourquoi du comment, etc. Et ça ne regarde personne. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vraiment, quand tu t'abandonnes à Allah, quelle que soit l'issue, donc si mon ex-mari était un bien, alhamdoulilah, on aurait continué. Et puis voilà, tu vois, tu t'abandonnes à Allah, donc Allah t'aura donné le meilleur. Et cette séparation, vraiment, bah, c'est là où, bah, du coup, pourquoi j'ai commencé à être connue, etc. Parce qu'en fait, j'ai été moi. C'est-à-dire que là, j'ai enfin pu reprendre des cours. J'ai enfin pu, en fait, transmettre comme, en fait, ma vocation, en fait, ce pourquoi je suis née et ce pourquoi j'étais animée. J'ai enfin pu, en fait, être la personne que je peux, que je voulais être et ce à quoi j'aspirais. Et de ce jour-là jusqu'à maintenant, je n'ai plus eu aucun souci, que ce soit financier, émotionnel. Mes enfants, ils sont heureux, épanouis. On vit, on respire l'amour d'Allah du matin au soir. Et franchement, je dis pas que c'est pas facile, que c'est y a pas de moment difficile, mais en fait, cette difficulté, elle est tellement bonne. Genre, c'est tellement bon, tu sais, genre tu vis que pour Allah. Et vraiment, juste le fait d'avoir ma vie du matin au soir, en fait, qui est régie que par l'amour d'Allah, que par les vocations d'Allah. Mais j'en suis tellement reconnaissante. Et vraiment, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon mari, j'ai tout lâché en fait pour Allah. Et j'ai eu la meilleure des choses. Vraiment, j'ai eu le meilleur des retours. Et pour tout ce que je vis à l'instant T, ce que je vis aujourd'hui et comment mes enfants sont, etc., je suis la plus heureuse, alhamdoulilah. Parce que là, ce que j'apporte, les lumineux, la personne que je suis, là, je suis vraiment moi, tu vois. Je suis vraiment moi et j'apporte tout ce que j'ai toujours fait, tu vois. Donc, l'enseignement, l'apprentissage, etc. J'ai dû, pendant mes années de mariage, mettre un stop sur mon apprentissage, sur pas mal de choses, etc. Et là, dès que je me suis séparée, mais ça y est, en fait, j'ai pu reprendre l'apprentissage, j'ai pu reprendre. En fait, j'ai pu être moi-même. Et c'était magnifique. Et c'est magnifique jusqu'à aujourd'hui. J'en suis reconnaissante. Et vraiment, quand on se livre à Allah, ne vous dites pas que vous êtes seul, parce qu'Allah prend soin de vous et prendra soin de vous autant que vous lui ferez confiance, autant que vous aurez justement cette confiance en lui. Il se chargera en fait de tous vos problèmes, de tous vos soucis, et il va pourvoir à vos besoins, il va pourvoir à tout en fait, alhamdoulilah, et il vous apportera la plus belle des facilités. Et voilà, et ça c'était magnifique, quoi. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, je le vis et c'est tout ça en fait, c'est toute ma famille. J'ai voilà, pour moi en fait, c'est ça, c'est. Tu dois prendre des décisions si le cadre familial n'est pas le bon et si ce que tu apportes à tes enfants n'est pas bon. Ça, c'est difficile, c'est pas évident, mais si ta foi est en péril, la foi de tes enfants et le cadre que tu veux faire, Si, pour moi, si on ne vit pas avec l'amour d'Allah, on ne vit pas avec l'évocation d'Allah au quotidien, stop, on s'arrête là, tu vois, et on essaie de trouver une solution, etc. Soit on se réforme, soit si la réforme n'est pas bonne et si bah voilà, c'est pas une bonne chose, voilà, prendre des décisions et se retrouver avec Allah, c'est la meilleure des choses, alhamdoulilah.
Merci pour ta confidence, merci pour ton partage. C'est tellement beau ce que tu as dit quand ce moment où tu dis tu décides de lâcher. En fait, quand tu décides de lâcher, de te livrer à Allah, de placer totalement ta confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, tu vois. Ouais, placer sa confiance en Allah, le tawakkul, c'est tellement dur en fait de lâcher prise. On s'accroche tellement, on a tellement envie, on a tellement de peur, on a tellement de doutes aussi, tu vois. Et alors qu'au moment où tu places ta confiance en Allah, ben, c'est là où il y a, c'est là où il y a. En fait, tu places ta confiance en Allah dans tout. C'est-à-dire, je te dis, Allah, moi, je lâche prise. Donne-moi ce qui est bon pour moi. Et moi, j'ai plus de préjugés sur ce qui est bon pour moi, tu vois. Moi, ça me rappelle ma mère à la fin, quand au moment où je l'ai vue, ce moment où elle arrêtait de se battre. Non pas pour dire qu'elle arrêtait de faire les causes et tout, mais pour dire que. Parce qu'elle a fait les causes, hein. Mais avant, c'était avant sa radiothérapie où elle se dit, Ya Allah, je lâche prise réellement. Je suis pleinement satisfaite de ce que tu vas décider pour moi. Je vais continuer à faire les causes parce que c'est mon rôle. Mais en fait, je ne cherche pour moi guérir ou mourir, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu choisis la guérison pour moi, je suis heureuse. Si tu choisis la mort pour moi, je suis heureuse parce que j'ai confiance en toi et je sais que ce que tu veux pour moi, c'est le bien. Parce que tu vois, voilà. Et en fait, ce moment où de lâcher prise, moi, je l'ai vu vraiment sur elle, sur son visage et tout, ce soulagement. Et en fait, subhanallah, bah, ça entrait. Après, tu vois, elle est décédée, mais elle a eu une mort magnifique. Donc, en fait, voilà. Donc, dans chaque situation, bon, là, c'est une situation très, très extrême. Hein, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est un peu ultime, dans le sens où vraiment, tu remets vraiment ta vie à Allah en te disant, même si je meurs, c'est OK, j'ai confiance en toi. Et nous, comment dans notre petit, ouais, dans notre quotidien, placer sa confiance en Allah et vraiment lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette anecdote, hein, parce que je sais que on rentre dans ton intimité. Donc, vraiment merci à toi. Et vraiment, jusqu'à, machallah, c'est plein de choses transpirantes dans ce podcast. Moi, je suis là, j'écoute et j'ai envie de les réécouter déjà, tu vois, quand on va le terminer. Parce qu'il y a plein de, il y a plein de moments émouvants. Hein. Moi, je pense toutes les deux, on a eu les gens ne le savent pas, tu vois, parce qu'on est sur le podcast, mais il y a plein de moments émouvants dans le podcast. Je te remercie énormément. Je vais voir juste si j'avais une dernière, peut-être petite question. Alors, hop, parce qu'après, il faut que j'aille chercher mes petites choupettes. Non, en fait, non. Je pense qu'on va s'arrêter là. Machallah, on a parlé de pas mal de choses quand même. Je suis très contente, vraiment, parce qu'on a parlé vraiment de plein de sujets. Et moi, personnellement, ce podcast m'a enrichi, comme je l'ai dit en off, je crois. Je te disais, mais moi, j'aime trop faire des interviews parce que, tu sais, j'oublie un peu qu'il y a des gens qui vont écouter, tu vois. Moi, je suis là, je
Ouais,
prends, je
c'est
m'enrichis, je suis là, waouh, et tout, tu vois. Et après, je sais que moi, de toute façon, si j'en profite, je sais qu'il y a plein d'autres gens là, qui en profiteront.
ça.
Donc, un grand merci à toi, Safia. Merci d'avoir répondu présente. Merci d'être sur le podcast. Merci pour ton honnêteté, pour tes confidences. Merci pour ton. Tu l'as dit à la fin. Aujourd'hui, alhamdoulilah, t'es heureuse et je suis heureuse pour toi. Et notamment, ce qui t'a aidé, c'est que tu es toi-même. Et c'est vrai que ça rend. En fait, de pas porter de masque et de s'autoriser à être soi-même, à briller, tu vois, à faire ce qu'on aime, à être comme on aime, sans se cacher, sans avoir peur du regard des autres et tout, bah ouais, ça fait du bien et alhamdoulilah, ça contribue au bonheur. Donc, je suis très heureuse pour toi. De toute façon, tu le dégages, hein, tu le dégages vraiment. Hein. Je trouve que douceur et lumière, c'est un nom qui te va bien, Inch'Allah. Allah te préserve. Et est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour nos auditrices?
Bah écoute, franchement, je pense qu'on a, avec le petit passage de Tawakkul, je pense qu'on a bien conclu, alhamdoulilah. Vraiment, mettez Allah au centre de vos vies et au centre de celui de vos enfants. Ne vous mettez pas de masque et dites-vous, je suis la mère que je suis le papa que je suis, mais ce que je veux, c'est qu'Allah soit au centre de notre vie à tous. Et vraiment, prenez le temps d'en discuter avec votre époux, avec vos enfants, etc. Et dites-vous, OK, à l'instant T, qu'est-ce qui fait que Allah n'est pas suffisamment au centre de nos vies, etc. Et vraiment, prenez un petit peu le discours de vos enfants, le point de vue de tout le monde, en fait, et essayez d'en faire ressortir ben, de belles résolutions et de faire en sorte, inshallah, que tout ce que vous puissiez faire, ce soit pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et que vos enfants puissent avoir, ben, du coup, grandir avec les plus beaux le plus beau des modèles et cette confiance en Allah en fait qui va être solide, inchallah.
Merci, merci pour ces belles paroles et pour ce bel exercice à faire avec les enfants. Vraiment, barakallahu fik, Safia.
Merci.
Sur ce, je vous dis à jeudi prochain, inchallah, pour le prochain épisode. Salam alaikum.
Salam alaikum.